Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour, comment ça va? Comment ça va par chez vous? Coucou la team! Coucou la team! Salut Mep, ça va? T'es prêt pour demain? Moi non. Où je me prépare. Salut les messieurs zouz au soleil. Ouais, bon courage hein, pour ceux qui ont chaud. Pour ceux qui ont trop chaud, courage à vous, on pense à vous, courage. J'espère que ça va aller. J'étais en train de regarder un reportage qui montrait que les éboueurs, dans certaines communes, ils n'ont pas le droit de porter de short pour des raisons de sécurité, parce que ça protège leurs jambes, les pantalons. Voilà. Donc courage à toutes les personnes qui bossent dehors, évidemment. Ils peuvent pas bénéficier d'un bureau climatisé. Je vois pas ce qui pourrait mal tourner demain. Mais il n'y a rien qui va mal tourner demain, ça va très bien se passer. Et vous, comment ça va? Et vous, comment ça va? En ce mercredi, je vous rappelle qu'on va suivre ensemble la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée qui va commencer à 14h. Je vois pas ce qu'il pourrait, ouais. Non, mais on verra. J'ai vu, il y a un article dans Le Monde sur les bisbilles internes au Parti Socialiste, alors que Jérôme Guedj a insulté Jean-Luc Mélenchon. Le Parti Socialiste est divisé. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ils sont ressortis divisés de leur congrès. Ça concernera quel sujet? De quoi les questions au gouvernement? Bah, c'est une question que je te pose. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les questions, quels sont les sujets d'actualité sur lesquels le gouvernement peut être amené à s'expliquer? La question, la guerre entre Israël et l'Iran, peut-être, suite aux déclarations de Donald Trump en soutien à Israël. Les déclarations aussi de l'ayatollah Khomeini. Ouais. Le conclave, ouais, le conclave. Vu qu'on a appris hier que le conclave était retardé d'une semaine. Repoussé d'une semaine. Il y a une semaine de négociation en plus pour le conclave sur les retraites, puisqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Khomeini est mort, c'est Khamenei. Ah oui, c'est Khamenei, pardon. T'as raison, t'as raison. Excuse-moi, je les confonds. Je confonds mes ayatollahs. Il a dit quoi, Khamenei? Il promet des dommages irréparables si les États-Unis interviennent militairement en Iran. Voilà, c'est le titre de l'article du Monde que je lis devant toi. Les classiques, rien de nouveau. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau de la part de l'Iran. Dans les déclarations de Khamenei. Promettre, c'est bien, avoir les moyens de ses promesses, c'est mieux. Bah, c'est la question de l'intervention militaire iranienne. Ils ont déjà bombardé en partie Israël, Tel Aviv notamment. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se posent concernant Israël. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion sur où et comment la France se positionne. Bah là, en ce moment, il y a un G7 plus un sommet spécial sur le sujet. Donc, on est en plein dans les prises de position de la France et de tous les pays du monde. Mais visiblement, Donald Trump a préféré bouder le G7. Décidément, Trump, il déteste le multilatéralisme, hein, c'est pas son truc. Lui, il veut du bilatéralisme. One to one, on négocie, on trouve un deal. Après, vu qu'Israël est chez lui au niveau aérien, l'Iran ne peut pas faire grand-chose, même s'il le voulait vraiment. Oui, c'est vrai, t'as raison, map assistant. Israël et les États-Unis revendique le contrôle de l'espace aérien iranien. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, c'est une épine dans le pied de l'Iran qui peut pas beaucoup intervenir militairement, effectivement. Les USA viennent de déplacer vers l'Europe une trentaine d'avions ravitailleurs. Ouais, bah c'est pour allonger la distance de projection d'Israël. On se doute bien. Ça veut dire quoi revendiquer l'espace aérien? Ça veut dire que tous les avions qui volent dans l'espace aérien iranien sont contrôlés par les Israéliens. Les Israéliens ont des avions de chasse qui ont la supériorité aérienne sur l'espace aérien iranien. Donc c'est la chasse israélienne qui décide qui décolle, qui vole, à quel endroit. En gros, les avions, ils font nion. Les vulgarisateurs, ouais. Salut Stardust. C'est exactement ça. Je vais regarder un petit peu ce qu'a dit Ali Khamenei dans le live. Alors, le peuple iranien ne se soumettra à personne, affirme le guide suprême qui met en garde les États-Unis contre des dommages irréparables en cas d'intervention. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est exprimé à la télévision d'État. Je cite, le peuple iranien tient fermement face à la guerre imposée, tout comme il résistera fermement à une paix imposée. Et ce peuple ne se soumettra à personne, a-t-il affirmé en préambule de son intervention, selon les propos rapportés par l'agence de presse iranienne IRNA. En réponse aux propos du président américain qui a exigé de l'Iran une capitulation sans condition, dans un post sur son réseau Truth Social, Trump a déclaré, les Américains doivent savoir. Non, pardon, c'est Ali Khamenei qui a déclaré. Les Américains doivent savoir que toute intervention militaire américaine sera sans aucun doute accompagnée de dommages irréparables. Voilà. Voilà le résumé de la déclaration d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien. Parler du peuple iranien, c'est plutôt goldé de sa part. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une dissonance. Il y a une dissonance intellectuelle assez particulière. Les menaces, c'est bien. Être en capacité de les exécuter, c'est mieux. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai du mal à savoir quelle est la capacité exacte de l'Iran de répliquer et de faire la guerre à Israël ou aux États-Unis. C'est aussi très drôle de voir l'Iran surcommuniquer sur Twitter alors que la plateforme est interdite dans le pays. Oui, j'ai vu ça. J'ai bloqué les comptes. J'ai bloqué les comptes de l'armée iranienne qui communique sur Twitter. Tant que les deux sont fournis par des grandes puissances, ça peut durer. Bah, l'Iran, ils sont fournis par la Russie. Hein. La Russie, en termes de grande puissance, c'est quand même vachement affaibli hein, depuis la guerre en Ukraine. Je sais pas. Pour être honnête. Ils sont loin d'une bombe nucléaire, mais ils ont déjà de quoi faire une bombe sale et ils ont le vecteur pour toucher Israël. Ouais, c'est vrai. Est-ce que la Russie fournit vraiment? C'est surtout l'inverse dans la guerre en Ukraine. Bah, c'est ça, c'est pour ça que moi, la notion de grande puissance en parlant de la Russie, je suis pas sûr que la Russie ait les moyens de fournir quoi que ce soit à l'Iran, hein. À la Syrie, ils l'ont déjà fait par le passé. Mais là, la Russie n'est pas en capacité de les aider, surtout c'est l'Iran qui les aide. Ouais, c'est carrément l'Iran qui aide la Russie. Ouais, voilà. Ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir, quoi. Militairement, l'Iran ne fait absolument pas le poids face à Israël. Le seul atout, c'est la capacité de saturation via drones, missiles, mais très imprécis, et de leur proxy au Liban, en Syrie, qu'ils ont perdu. Mais dans le format actuel du conflit, l'Iran est à poil. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie capacité de nuisance de l'Iran, c'est le Hezbollah, et c'est le Hezbollah libanais. C'est des milices chiites en Irak et en Syrie. Ouais. Non, c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. D'où le fait qu'Israël tape sur le développement nucléaire, c'est la seule porte de sortie de l'Iran. Oui, bah ça, on l'avait bien compris. On l'avait bien compris. Le Hezbollah, il a été décapité par Israël, donc ils sont HS. Ouais, c'est vrai. C'était la fameuse attaque avec les beepers piégés. Le Hezbollah, il a été désarmé à 95%, il me semble. Ah bon? C'est possible, hein, c'est possible, je sais pas, je suis pas assez informé. La capacité de bloquer le détroit d'Ormuz où 30% du pétrole mondial passe aussi. Alors ça, effectivement, ça pourrait être l'un des effets en cas de déstabilisation durable de la région. Ça pourrait être un des effets, c'est l'augmentation du prix du pétrole partout sur la planète. Et alors là, les ZFE, ça va être le cadet de nos soucis. Hey, on est le 18 juin. On est le 18 juin. C'est l'appel du 18 juin. Vous avez reçu l'appel du 18 juin? Ça a sonné ce matin. Le podcasteur Charles de Gaulle, évidemment. Bien sûr. On refait l'appel. On refait. Non, je suis chez SFR. Ah merde, c'est quel dommage, t'es chez SFR. Maintenant, tu peux pas. Hey. Bah ouais, l'appel du 18 juin. Hein. Le podcasteur De Gaulle qui avait son petit podcast à la BBC. J'ai des nouvelles de ton bouquin à la librairie de Poutou. Je vais le chercher après le boulot. Je vais essayer de le faire signer. Je suis pas sûr que tu puisses faire signer à Philippe Poutou un bouquin qu'il n'a pas écrit. Hein. Mais j'espère qu'il te plaira le livre en tout cas. Oui, j'ai reçu un appel. L'appelant me parlait de pompe à chaleur, j'ai rien compris. Vous connaissez MaPrimeRénov'? Ça a été supprimé par le gouvernement. En fait, non, c'est pas supprimé, ça a été remis. Vous pouvez faire des rénovations énergétiques dans votre logement. J'ai pas de logement. Ah bah. Du coup, ça te concerne moins, c'est sûr. Est-ce que je peux avoir l'argent quand même? Non. Non. Non, commencez pas à essayer de gratter l'État. Commencez pas à essayer de gratter. Si vous n'avez pas droit, vous n'y avez pas droit. C'est pas les rénovations globales qui sont exclues. Attends, les rénovations globales sont exclues ou c'est pas les rénovations globales qui sont exclues? Je comprends pas ton message. J'ai pas bien compris comment a été réorganisé le dispositif, je vous avoue. Est-ce que tu vas au Salon du Bourget cette année? Ouais, je vais essayer d'y aller vendredi après-midi. Je vais essayer d'y aller vendredi après-midi, en toute détente, sous un soleil de plomb. La température vendredi, il fait 32 degrés. Ça va être cool. T'as intérêt à passer chez ASF. Bah, je vais essayer de passer te voir, oui, bien sûr. Moi, il y a une IA qui a proposé de me vendre des panneaux solaires. Elles deviennent fortes, ces saletés. Maintenant, ils arrivent même à savoir si t'es un homme ou une femme. Genre, bonjour madame, monsieur. Ah ouais? Genre, t'as reçu un coup de téléphone d'un démarchage téléphonique, mais c'était une IA qui te parlait? Putain, c'est ouf. J'ai jamais reçu ça, moi. Pareil, j'en ai 5 par jour. Ah ouais? J'en ai souvent. Ah ouais, sérieux? Salut, Mr. Fox. Je me fais spammer en ce moment. Ah bah putain, moi j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance, je me fais pas trop spammer. Je dois recevoir 2 ou 3 appels par semaine. Mais de toute façon, dès le numéro de téléphone, je remarque que c'est du spam, donc je réponds pas. Est-ce que vous connaissez la technique d'ailleurs? Pour se débarrasser d'un démarchage téléphonique. En fait, si vous avez un doute sur le numéro de téléphone qui est en train de vous appeler, si vous avez un doute sur le numéro de téléphone qui est en train de vous appeler, vous décrochez et vous ne dites rien. Vous restez silencieux. Et là, normalement, vous devriez entendre le téléphone se raccrocher. Et la raison à ça, c'est que, en fait, c'est un ordinateur qui appelle automatiquement des numéros toute la journée. Et ce qu'il va détecter, c'est votre voix qui dit allô. Et c'est seulement si le robot détecte votre voix qui dit allô, qu'il vous branche sur un opérateur. Et du coup, ça bascule l'appel sur un opérateur qui vous répond en disant oui, bonjour monsieur, je m'appelle machin, je voudrais vous vendre des fenêtres, etc. Donc la technique, si vous avez un numéro de téléphone en 03, en 07, enfin, je sais pas, un numéro de téléphone bizarre qui vous appelle, vous décrochez, vous écoutez. Si c'est un vrai être humain qui essaye en train de vous appeler, vous l'entendrez dire allô. Mais si vous entendez rien, et si vous entendez le truc se raccrocher tout seul, bah c'est que c'était un robot et que vous avez niqué l'ordinateur en ne disant pas allô. Voilà. Donc je vous conseille de tester. Et puis sinon, installer un bloqueur, il y en a plusieurs, il y a Bloctel aussi. Un bloqueur d'appels malveillants. Il y a un streamer qui a une IA qui emmerde les démarcheurs, c'est génial. Ouais, ça peut être marrant. Après, bon, tu sais, les démarcheurs, c'est des gens très précaires. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très drôle de les faire chier. Bloctel, ça marche zéro. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Mr. Fox. Hein. Moi, j'ai l'impression que Bloctel, ça marche pas. J'ai jamais réussi à, je sais pas, à le faire marcher. C'est hyper relou. C'était pas hier les questions au gouvernement? Si, mais les questions au gouvernement, c'est le mardi et le mercredi à l'Assemblée nationale. Y a du rab. Bah ouais, il y a 2 séances de questions au gouvernement par semaine. Une le mardi, une le mercredi. Bloctel, ça marche aussi bien qu'Adopi. Mais je sais pas, moi, Bloctel, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, ce truc-là. Je me suis inscrit plusieurs fois. J'ai essayé. Je voyais que ça changeait pas grand-chose. Ça m'a saoulé. Ça m'a trop saoulé. J'ai pas regardé celui d'hier, ça portait sur quoi? Eh ben, tu verras cet après-midi. Tu verras cet après-midi, mais hier, on a eu beaucoup de questions qui ont concerné très directement. Israël et l'Iran. On avait des questions sur Israël et l'Iran. On avait des questions sur le MaPrimeRénov. On avait des questions sur le conclave des retraites. Pour le démarchage, tu peux aller sur un site du gouvernement pour te mettre sur une liste. Depuis, j'en ai 10 fois moins. Bah, c'est ça, Bloctel. Bloctel, c'est un organisme public qui est censé lutter contre le démarchage téléphonique intempestif. Bah, ça marche pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça marche. Je suis inscrit et je reçois toujours des appels. Tu vas te prendre une amende, Mr. Fox? Troisième avertissement d'Adopi. Aïe. Mais parce que tu télécharges encore en peer-to-peer? Tu télécharges des torrents? Et du coup, c'est ça qui fout le bordel? Obligé pour le boulot. C'est même pas une blague. Ouais, ça, je sais, non, mais. Toi, Mr. Fox, vu le travail que tu fais, ça m'étonne pas du tout que tu aies besoin de télécharger. Mais ouais, d'accord, ok. Bon, bah, relou. Relou quand même. Les 1500 euros d'amende. Protip, il y a une petite liste de fichiers surveillés, ce qui est illégal et repéré. C'est CD. D'accord. Ah, c'est le seed qui est repéré, c'est pas le fait de télécharger. D'accord. Je savais pas du tout. D'accord. Ok, donc faut, ouais. Faut faire gaffe à ce qu'on seed, quoi. Putain, mais ils sont forts quand même, Adopi, pour réussir à remonter jusqu'à ton adresse, ton identité et tout. En torrent, t'es obligé de seed pour DL. Oui, je sais, mais une fois que t'as fini de DL, tu peux retirer, tu peux arrêter de seeder, même si c'est pas très bien vu par la communauté. D'ailleurs, c'est plus Adopi, c'est l'Arcom. Oui, t'as raison, c'est l'Arcom. L'Arcom qui est la fusion de la Adopi et du CSA. Exactement ce que je fais, gros rat que je suis. Mais normalement, si tu cites pas, tu finis par te faire virer par les sites internet, non? J'y connais rien, j'y connais rien. Mais normalement, le principe, c'est que les sites internet sur lesquels tu télécharges, ils vérifient si tu continues à cider en parallèle de ton téléchargement, non? Il y a des ratios envoi-réception à respecter. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Tu dois respecter des ratios entre l'envoi et la réception. J'y connais rien. Un jour, il faudrait que quelqu'un m'apprenne. En même temps, je suis pas un amateur de cinéma, donc j'ai pas grand chose à j'ai pas grand chose à télécharger. Voire partager ses propres fichiers. Ouais. Ce que je ne fais pas, évidemment, c'est mal. Un jour, je serai le meilleur seeder. T'es pas obligé, t'as des programmes trouvables sur GitHub pour Ratio Master qui simulent le seed. Comme Ratio Mart. Ouais, d'accord, ok. Non, non, mais ça, c'est trop technique pour moi. Hein. Là, on touche à un truc. Moi, je veux bien respecter. Je veux bien respecter les règles. Hein. Si la règle, c'est qu'il faut seeder en plus de télécharger, bah, il faut seeder. Hein. Voilà, tu seed et puis c'est tout. Je te fais un tuto quand tu veux. Merci, Mr. Fox. Moi, j'ai déménagé à l'étranger pour pas avoir de problème. Ah oui, c'est un peu radical, si je puis me permettre. C'est un peu radical comme prise de décision. Surtout Netflix qui augmente ses prix tous les ans. C'est combien maintenant l'abonnement Netflix? Il est à combien? On en est à combien là cette année? Je m'en rends pas compte. J'ai pas regardé mes relevés de compte. 15 balles? C'est 15 balles par mois? Genre c'est autant que le club Baxit? En étant, c'est beaucoup moins bien évidemment, mais c'est autant que le club Baxit. 8 euros, 15 euros ou 22 euros. 22 en premium, oh là là. Le pire, c'est l'abo Amazon, mais t'as quand même les pubs. Ah ouais? Amazon Prime, t'as quand même les pubs? Je sais pas, je regarde jamais Amazon Prime. Je sais pas trop ce qui s'y passe. Spotify augmente aussi ses prix, pareil pour Google. Putain, mais c'est de plus en plus cher là, c'est l'inflation, c'est terrible. Comment on va faire? Apple TV a augmenté, Disney Plus a augmenté. Oh là là là. Il n'y a que moi qui ai un abonnement qui n'a pas augmenté sur Twitch. Est-ce qu'on peut résilier les abos? Oh, chiant, on va retourner à nos techniques des années 2000. Ah bah si ça continue comme ça, on va être obligé de relancer Emule et Kazaa. Putain, les souvenirs Kazaa. Je téléchargeais les albums de Linkin Park sur Kazaa. Et ma sœur, elle téléchargeait Lori. Classique. Bah oui, classique, évidemment. Après, j'ai essayé de télécharger des clips aussi. On pouvait télécharger les clips musicaux. Mais des fois, il y avait du porno qui venait se glisser dans les clips. Évidemment. Évidemment. Trois jours pour une chanson. Ouais, il fallait attendre trois jours. Fallait laisser tourner le PC toute la nuit. Fallait laisser tourner le PC toute la nuit pour qu'il télécharge. C'était trop bien. Trop bon souvenir. On a tous utilisé cette excuse-là. Ouais. Je me souviens des skins Winamp. Mais oui, les skins Winamp. Pour écouter de la musique, on avait des skins Winamp qui étaient dégueulasses. Qui étaient absolument dégueulasses. LimeWire aussi. Ah oui, LimeWire. LimeWire, Kazaa et Emule. C'était les trois logiciels les plus répandus, je crois. Et tu gravais un CD après. Oui, après tu gravais ton CD. Avec Nero Burning Room. Nero Burning Room. Je sais plus comment s'appelait le logiciel, mais t'avais le logiciel de gravage de CD. Et après tu écrivais avec un feutre sur le CD le titre de l'album. Et tu le rajoutais dans ton classeur à disque. C'était Nero Burning Rome. C'était Nero Burning Rome, c'était bien ça. Ouais. Le logiciel qu'on utilisait pour graver les CD. Merci Jeff LC qui offre un sub, merci beaucoup. Merci Acrokaiser également, merci Willing. Merci Oscar Yotz et Le Violoneux. Merci beaucoup pour vos abonnements, les amis. C'est un jeu de mots, Néron qui brûle à Rome. Oui, je sais, c'est un jeu de mots avec Néron, l'empereur romain qui a mis le feu à Rome. Nero Burning Rome. Fun fact, un graphiste bénévole a fait son premier logo à une de mes vidéos sur un site de Warez. Merci Jeff. Alors, je viens de comprendre que Jeff t'avait offert un sub à Nostalgie. Je viens de comprendre. Merci pour ton sub offert à Nostalgie. Vous ne téléchargeriez pas une voiture? Ah oui, putain, la publicité des ayants droit. Mais du coup, ça a changé un peu à gauche. Arrêtez-moi si je dis une connerie, mais maintenant, à gauche, on soutient les ayants droit contre les géants de l'intelligence artificielle. C'est fini l'époque où le piratage et le partage gratuit de la création des artistes étaient revendiqués par tous les alternatifs. Ils sont passés où, les Anonymous? C'est fini, c'est plus du tout à la mode. Maintenant, il faut taper sur l'IA qui ne respecte pas les artistes. On ne soutient plus le libre. Ben non, on ne soutient plus le libre. Ah non, c'est fini, hein. Non, non, c'est terminé. Maintenant, on est dans le respect des artistes, respect des auteurs, protection contre les comportements qui volent. Des artistes et des auteurs. Non, c'est impressionnant, ça a vachement changé, hein. Est-ce que vous pensez que le React sur Twitch va disparaître? Parce que bon, on est entre nous, on peut se le dire, hein, les streamers qui font du React, ils n'ont pas les droits. Hein. Bon, pourquoi ils se font pas taper dessus du coup par les mêmes qui tapent sur l'intelligence artificielle? Il reste des contradictions, il reste des contradictions. Il reste encore quelques contradictions. C'est pas encore clair pour tout le monde. Le React sur Twitch, c'est pas marginal? Si. Droit de citation? Ah non, mais le droit de citation, c'est une courte citation, hein, c'est pas le React. Le React sur un documentaire en entier sans avoir les droits de diffusion. Non, mais après, bon, chacun ses contradictions, chacun ses contradictions, chacun ses petites hypocrisies. On peut faire du React sur Twitch tout en tapant sur les intelligences artificielles qui volent le contenu des auteurs et des artistes. Chacun s'endort le soir avec sa paix intérieure. Mais je remarque, en tout cas avec intérêt, je remarque que l'ambiance a vachement changé à gauche sur ces sujets-là. Non, non, mais c'est intéressant. Certes, alors qu'avant on shamait Alexandre Astier. Oui, non, mais avant c'était à la mode. On shamait Alexandre Astier parce qu'il défendait le droit des auteurs et on voulait pouvoir télécharger Kaamelott tranquille. Bah voilà, l'ambiance a changé, maintenant on est tous du côté d'Alexandre Astier. Non mais intéressant, changement d'avis. Kaamelott le film, ça reste naze. Kaamelott le film, c'est pas une grande réussite. Mais la série Kaamelott, moi, j'aime toujours autant. Hein. On est tous devenus plus conservateurs. Je sais pas si on est tous devenus plus conservateurs, non. Je sais pas si la question, c'est le conservatisme contre le progressisme. J'ai pas l'impression que ce soit ça, le clivage. Mais disons que quand on identifie les auteurs comme étant des majors qui se font plein de pognon dans le domaine de la musique ou du cinéma, eh ben on ne se comporte pas de la même manière que quand on considère que les auteurs, ce sont des artistes qui, pour beaucoup, n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne vivent que de leur art et qui se font piller par des géants du numérique. Forcément, on a un regard qui évolue. Mais moi, je me souviens, à l'époque, justement, on parlait de Casa, Emule, à l'époque, la quadrature du net, etc., Turbo Militant, etc. On était tous en mode, ouais, il faut pouvoir télécharger librement, chacun doit pouvoir avoir accès au catalogue de l'ensemble des artistes, les artistes ne devraient pas avoir de droit d'auteur. Bon, bah voilà, ça c'était un discours des années 2000. Puis aujourd'hui, dans les années 2020, il y a les intelligences artificielles qui se sont développées. Et là, on a tous changé de discours et on dit plus exactement la même chose. On est devenu plus conscient. C'est pour ça que les artistes font des albums qu'ils avaient écoutés sur Spotify et se rémunèrent sur des concerts. Ouais. Après, il y a une différence entre rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre et les IA qui pompent les œuvres pour se faire du fric dessus. Non, il n'y a pas de différence. Ça s'appelle du vol dans les deux cas. Je suis désolé, mais je veux bien. Oui, mais c'est du vol pour la bonne cause. Non, non, c'est du vol. S'il n'y a pas de. Tu mets à disposition un contenu qui ne t'appartient pas d'autres personnes, c'est du vol. Et après, tu peux toujours essayer de plaider au tribunal en disant que c'était pour la veuve et l'orphelin. Tu vas perdre. Je me suis fait choper pour Inception. Tu t'es fait choper pour Inception, Mr. Fox? Fallait pas télécharger, hein. Quand c'est du téléchargement juste pour toi et quand c'est du téléchargement pour revendre tes services, je trouve pas ça pareil. Bah c'est pour ça que c'est le seeding qui est condamné, je suppose, comme on le disait tout à l'heure. C'est pas tant le téléchargement que le seeding qui est contraire à la loi. Donc, non, intéressant. On verra comment tout ça va évoluer. On verra. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va finir par gagner la bataille? Moi, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que là, on est en train de vivre les derniers soubresauts de la contestation de l'intelligence artificielle et à la fin, de toutes les manières, elle va gagner et on aura tous des contenus en intelligence artificielle qui seront publiés sur les réseaux sociaux partout? Oui, non, on verra. Hélas, oui et non. On va faire un petit vote. On va faire un petit vote. Alors, est-ce que l'IA va gagner la bataille? Oui, non. Obi-Wan Kenobi. Hop, je vous mets 2 minutes de temps de vote. Non, je vous mets 1 minute. 1 minute de temps de vote. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti, c'est maintenant, il faut voter. Vous avez 1 minute pour voter et pour nous dire si, selon vous, à la fin, c'est l'IA qui va gagner la bataille. Et on va tous se retrouver avec, de toutes les manières, des contenus IA sur nos plateformes de réseaux sociaux. Chez Hugo Décrypte, c'était 90% de boycott. Moi, ça me donne de l'espoir. Ah ouais? Là, je vois que vous êtes une bonne majorité quand même, hein. Vous êtes une grosse majorité à considérer qu'effectivement l'IA va gagner. À la fin, c'est l'IA qui va gagner la bataille. Y a déjà eu des questions au gouvernement qui ont été écrites par l'IA, par des députés qui voulaient justement alerter contre les dangers de l'IA. Ouais, donc vous êtes une grosse majorité, ouais, à dire que l'IA va gagner la bataille. Ok, intéressant, on verra. On verra, on fera le point, on en reparlera pour voir si les choses ont changé. grosse majorité 51, bah quand tu vois que le oui est à 51 et que le non est à 20%, ça s'appelle une grosse majorité, oui. Grosse majorité relative. Pour l'instant, l'IA a un côté uncanny valley dans l'écriture insupportable. Ouais, je suis d'accord. Personne n'a gagné. ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que pour l'instant, les contenus IA sont pas extraordinaires, mais le jour où ils seront perfectionnés, est-ce que vous pourriez regarder un stream en IA? Genre un streamer comme moi, là, qui parle d'actualité politique, mais en fait, c'est une IA. Non, vous dites non parce que vous êtes sympa. Vous dites non parce que vous êtes sympa. Mais en vrai, je vous connais, hein. Non, vous êtes adorable, vous êtes adorable. Mais entre nous, le jour où t'as une IA qui fait des contenus politiques en te disant que ce que t'as envie d'entendre, hein, uniquement unilatéral, tu vois, c'est vraiment la bulle de filtre chimiquement pure. Je suis sûr qu'il y en a qui vont s'abonner. Hein. Où sera l'intérêt? Bah, t'entendras des choses avec lesquelles t'es d'accord. Ça se vend bien sur Internet, hein, ça. Les bulles de filtre sont d'abord des bulles de business, je vous rappelle. Ça s'appelle CNews. Ah, pour l'extrême droite, ça s'appelle CNews, ouais, par exemple. L'extrême droite, ils sont servis, hein, ils ont ce qu'il faut. Ça existe déjà sur X. Sur X, il y a des comptes politiques qui sont faits uniquement en intelligence artificielle, ouais. Notamment des comptes proches de Donald Trump. Sur YouTube aussi. Alors sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des contenus philosophiques notamment, qui étaient faits avec l'intelligence artificielle. Notamment sur le stoïcisme. Ça, j'ai vu qu'il y avait des chaînes YouTube d'intelligence artificielle qui existaient. Il y a des bots à commentaires sur YouTube. Ouais, je sais, bah ça, je suis bien placé, je les connais. Il y a des bots de commentaires YouTube. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Ils ont même pas l'air de faire du business en plus, je comprends pas. Des livres audio aussi. Ouais. Maintenant, il y a un paquet de trucs, hein. Moi, je sais pas si je vais survivre longtemps, hein. Ça se trouve, je vais être remplacé par des IA. Vous allez voir qu'il va y avoir une IA politique sur Twitch qui va faire un boulot de meilleure qualité. Et puis ciao, bye bye, hein. Tu alimentes l'IA par tes streams. Ouais, celui-là, ça va être de ma faute en plus. La chaise qui stream, ouais, j'avoue. Ça se trouve, ça va être une IA qui va être entraînée sur toutes mes archives de stream, qui va dire la même chose que moi, mais avec plus de précision. Parce que moi, il y a des trucs que j'oublie, hein. Il y a des trucs, évidemment, je suis imparfait, je suis un être humain. Du coup, des fois, je cherche des dates, je cherche des chiffres. J'ai besoin de me solidifier sur des trucs, sur des machins, alors que tu demandes à l'intelligence artificielle. Elle a qu'à scanner le journal Le Monde, le journal Libération, le journal Le Figaro. Rien que ça. Elle les scanne tous les jours. Et hop, elle te fait un stream ensuite d'actualité politique. Hein. On essaye un jour. Non, je suis pas chaud. Non, je suis pas chaud. Non, je suis pas chaud pour essayer, non. T'as qu'à être parfait. Bah ouais, non, mais c'est de ma faute, voilà, c'est de ma faute, c'est à moi d'être meilleur. C'est à moi d'être meilleur que l'IA qui n'existe pas encore. Putain. Oh là là là. Le mythe de la croissance, hein. Le mythe de la croissance, hein. Faut vraiment être toujours plus fort, toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus. Terrible. Ça commence dans 10 minutes, chers amis, la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Avant qu'une IA la fasse, c'est moi qui continuerai à la faire, cette séance de questions au gouvernement. Hop. Hop, 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 hop. De quoi ça va parler aujourd'hui? À mon avis, Israël-Iran. Il est possible qu'on revienne dessus. MaPrimeRénov, les inquiétudes sur les travaux qui ont été engagés. Le conclave, qui a une semaine de rab de négociation en vue de parvenir à un accord, puisque là, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La canicule, ouais, peut-être la canicule. Il y aura peut-être une question sur la canicule, t'as raison. Surtout que le MEDEF dit on va pas revenir lundi. Ah bah si le MEDEF claque la porte, oui, ça c'est sûr, il va rien se passer. Hein. Le G7, Ukraine et Trump, ouais, t'as raison, le G7. Donald Trump, la guerre en Ukraine, t'as raison, ça fait partie des sujets aussi qui peuvent être abordés. Alors le G7, il va aussi être abordé sous l'angle, évidemment, Israël-Iran et Israël-Gaza. Les contrôles dans les gares de Retailleau. J'ai vu que Bruno Retailleau avait annoncé qu'il y allait y avoir des contrôles de la police aux frontières dans les gares. Sur le modèle des rafles sur le modèle des rafles aux États-Unis. On a le droit au ICE européen. Bah peut-être, ouais, peut-être qu'il y aura une coordination policière européenne pour la lutte contre l'immigration. Ça existe déjà, ça s'appelle Frontex, hein. Mais ça ne s'occupe que des frontières extérieures. Des contrôles en milieu scolaire? Je crois pas qu'il y aurait des contrôles en milieu scolaire. J'ai pas entendu d'annonce de contrôle en milieu scolaire. J'ai entendu des annonces dans les gares, les aéroports, de la police aux frontières. Qu'il va y avoir des contrôles de la police aux frontières pour contrôler la situation des personnes. T'as une certaine attente ou quelque chose que tu aimerais qu'ils abordent? Bah moi j'aimerais bien que le conclave soit abordé, ouais. J'aimerais bien que le conclave et la négociation sur la réforme des retraites soient abordées à nouveau. On l'a déjà entendu hier par le président du groupe socialiste Boris Vallaud, qui a posé une question au gouvernement en demandant à François Bayrou s'il avait l'intention de revenir devant le Parlement avec une loi, quelle que soit l'issue du conclave. Et Bruno Retailleau a dit que, pas Bruno Retailleau, pardon, François Bayrou a dit que le gouvernement n'avait l'intention de revenir avec une nouvelle loi retraite à l'Assemblée que si il y avait un succès du conclave. En cas d'échec du conclave, c'est l'ancienne loi qui s'applique. Possiblement la canicule qui s'annonce au menu. Bah, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est ce qu'on disait, à mon avis. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des questions qui soient posées sur le sujet de la. Sur le sujet de la canicule, vu qu'on va être en plein dedans là. Ça commence dans 6 minutes, mesdames et messieurs, la séance des questions d'actualité au gouvernement. Excusez-moi, j'étais en train de paramétrer un petit peu mon ordi pour pouvoir vous diffuser ça dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet, d'après vous, qui pourrait être abordé? Mariage en situation irrégulière. Hein? C'est quoi la différence entre les questions du mardi et du mercredi? Il n'y a aucune différence si ce n'est qu'il y a plus de questions le mardi que le mercredi. Parce qu'il y a des groupes qui ont deux questions à poser, les groupes les plus nombreux. Alors que les questions, alors que la séance du mercredi, il n'y a qu'une question par groupe. Est-ce que tu as les droits pour React? Oui, j'ai les droits pour React. Les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale n'ont pas de droit d'auteur. C'est une exception prévue par le Code de la propriété intellectuelle. D'une part. Et d'autre part, je ne fais pas de React. Ce que je fais, c'est pas du React. Ce que je fais, c'est du commentary. C'est pas la même chose. Je ne réagis pas à ce que j'entends. Je vous commente pour vous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. La pénurie de viande hachée tous les lundis dans mon supermarché. Ouais, non, je suis pas sûr que ce soit abordé, ça. Est-ce que la Chine et la Russie vont intervenir? C'est-à-dire, dans le conflit israélo-iranien? Je sais pas. Je pense que la Russie aurait bien du mal à intervenir, vu qu'elle n'arrive pas déjà à intervenir en Ukraine. La Russie n'arrive pas à sortir du Donbass alors qu'il bouge en Iran, il y a de la marge. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, moi j'y crois pas non plus. Je suis d'accord avec toi, je n'y crois pas non plus. Ils vont parler de Casa et Imul. Ah bah j'espère. Merci beaucoup Seb pour ton resub. Merci beaucoup. Et merci Mr. Fox pour les 20 bits. On attend que ça commence à l'Assemblée nationale. On attend que la séance démarre pour pouvoir la retrouver. Est-ce que tu vas partir en vacances? Ouais, je suis en train d'organiser ça. Je vais me barrer en août. Je vais profiter de quelques vacances. Tu nous laisses un mois entier? Non, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire cet été. Je vais décider ça prochainement. J'étais pas là hier. Est-ce qu'ils ont parlé de la taxe Zucman refusée par les sénateurs ou pas? Ouais. C'est pas grave que ce soit refusé par les sénateurs puisque c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat. J'ai le livre devant moi, je vous le recommande, celui de Yael Braun-Pivet. Ah, t'as le livre de Yael Braun-Pivet? J'ai vu qu'elle avait sorti un livre. Ouais. C'est après la CMP, si c'est pas conclusif, que la haine a le dernier mot. Ouais, exactement. Le résultat d'une CMP doit être adopté par les deux chambres ou seulement l'Assemblée nationale. Ça dépend si la MP est conclusive ou pas. Si la CMP est conclusive, les deux chambres votent une dernière fois le texte. Si la CMP n'est pas conclusive, l'Assemblée nationale seule peut adopter le texte. Est-ce que le gouvernement répondra à l'appel du 18 juin? Est-ce qu'on aura une question spéciale 18 juin? Appel du 18 juin, Général de Gaulle, tout ça? Je sais pas. Les écolos vont-ils se plaindre de la loi de simplification qui a été adoptée? Elle a été adoptée ou elle a été rejetée? La loi de simplification, je comprends plus rien. Je suis perdu, moi. Adopter donc suppression des ZFE. D'accord, ok, donc la loi simplification a été adoptée, ce qui prévoit la suppression des ZFE. Ok. Ok, d'accord. J'ai compris. Amendement de suppression des ZFE contre l'avis du gouvernement. Ouais, qui a été adopté, ça j'avais suivi. Y compris des députés Renaissance qui avaient soutenu les ZFE avant et qui maintenant ont voté pour leur abrogation. Ça a été dénoncé par plusieurs articles dans la presse, j'ai vu ça. Ouais, il est 14h, mais on est en retard là, hein, du côté de l'Assemblée nationale. Il y a un léger retard du côté de l'Assemblée. Je sais pas pourquoi. Vous inquiétez pas, la séance va commencer. Voilà. Début de la séance avec l'ascension de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui va présider cette séance de questions au gouvernement.
Bonjour à tous, Monsieur Balanant.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a?
La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Emmanuel Bléry pour le Rassemblement national.
Emmanuel Bléry, le député RN,
Madame la Présidente,
qui ouvre le bal.
La question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Ils participent à la souveraineté alimentaire, ils sauvent des vies, ils font partie de services publics, de police par exemple, ils guident les aveugles, ils accompagnent les gens les plus vulnérables. Je veux parler de nos animaux domestiques.
Ah.
Chaque année en France, plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnés, dont près de 60 000 en été. C'est un triste record européen. Ces animaux livrés à eux-mêmes sur la voie publique sont pris en charge par les administrations, les fourrières, avec le risque d'être euthanasiés par le manque de place dans les structures associatives qui, elles, gèrent leur adoption. Il y a un peu plus d'un an, en mai 2024, votre ministère annonçait un plan national en grande pompe pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie. Ce plan devait être le pivot de la lutte contre l'abandon des animaux. Un an plus tard, force est de constater que rien n'a été fait, comme d'habitude, j'allais dire, avec votre gouvernement. Pas de décret, pas de circulaire, pas de ligne budgétaire, aucun outil réglementaire ou financier à destination de nos élus locaux ou du monde associatif. Gandhi disait « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Ma question est simple, Madame la Ministre. L'été, c'est dans 3 jours, dans quelques heures. Faudra-t-il, encore une fois de plus, attendre des images insoutenables d'animaux abandonnés sur la voie publique pour enfin...
Emmanuel Bléry, il a 39 ans, il est député du Pas-de-Calais, il est fonctionnaire territorial, il est le président du groupe d'études sur la condition et le bien-être des animaux. Voilà pourquoi il pose une question.
Merci, Madame.
Sur ce sujet, on écoute la ministre de l'Agriculture.
Monsieur le député Emmanuel Bléry. La semaine prochaine, vous le savez, aura lieu la journée de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie, enjeu majeur, spécialement avant l'été. Et c'est une question qui est chère aux Français. Vous en êtes le porte-parole et vous avez raison d'aborder ce sujet. Tout d'abord, je voudrais dire que le gouvernement, depuis plusieurs années, est engagé avec détermination en faveur du bien-être animal, en réponse à une attente sociétale qui est des plus légitimes. Il condamne fermement toute forme de maltraitance, qu'il s'agisse des élevages, de l'abattage ou des animaux de compagnie. Je vous rappelle le plan France Relance. 36 millions d'euros ont été mobilisés depuis 2020 pour soutenir les associations de protection animale et la médecine vétérinaire solidaire que j'ai eu l'occasion de visiter au moment du Salon de l'agriculture. La loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale a permis des avancées concrètes et vous évoquez le plan national pour le bien-être des animaux de compagnie. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, une évolution de la législation européenne est en cours sous l'impulsion de l'État français avec la proposition de la Commission relative au bien-être et à la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché européen. Nous participons activement aux discussions européennes sur ce projet de règlement. Par ailleurs, le Sénat a diligenté une mission flash sur le sujet et les conclusions m'ont été transmises le 12 juin dernier. Je compte évidemment y donner une suite réelle via un plan d'action que j'annoncerai prochainement.
Et il se passe plein de trucs en fait sur le bien-être animal.
Plus protectrice, je vous rejoins. Et je veux vous annoncer enfin que je lancerai dans les prochaines semaines une grande campagne estivale de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie.
Il y aura bien une grande campagne contre l'abandon des animaux de compagnie.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai entendu vos propositions, donc prenons rendez-vous. Parce que si l'animal est le meilleur ami de l'homme, je crois que nous devons en être leur plus fidèle protecteur. Merci.
Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Travert pour le groupe Ensemble pour la République.
Merci Stéphane Travert. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée en charge de la politique de la ville. Madame la Ministre, vous avez mis en place plusieurs initiatives fortes pour promouvoir l'inclusion économique et sociale dans les quartiers prioritaires. Je sais votre attachement et au-delà de vos fonctions actuelles à la construction d'une politique de la ville qui promeut l'égalité des chances, combat les assignations à résidence qui touchent encore de trop nombreux jeunes de nos quartiers. Pouvez-vous nous rappeler les engagements concrets de vos actions de politique de la ville, notamment en matière d'inclusion et de formation pour la jeunesse. Dans ce cadre, pourriez-vous revenir sur les engagements concrets portés par votre ministère en matière d'inclusion, de formation et d'autonomie professionnelle pour la jeunesse des quartiers prioritaires ? Je pense notamment au déploiement du bus de l'entrepreneuriat ou encore au Cité Lab que vous avez récemment inauguré à Tours. Je souhaite aussi attirer votre attention sur les quartiers prioritaires des villes moyennes et rurales, parfois moins visibles dans le débat public. C'est le cas du quartier des Clairefontaines à Coutances, dans ma circonscription, dans la Manche, qui reste aujourd'hui classé quartier prioritaire de la ville. Il concentre des fragilités sociales importantes, avec un taux de pauvreté supérieur à 40% et représente une proportion élevée de familles monoparentales.
Stéphane Travert, il a 55 ans, il est député de la Manche, il est ancien commercial, il a été proche d'Henri Emmanuelli quand il était au Parti Socialiste, avant finalement de rejoindre Emmanuel Macron. Il pose une question sur l'inclusion dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Comment envisagez-vous d'accompagner les dispositifs de médiation dans ces quartiers pour assurer l'émancipation de la jeunesse et de la lutte contre les inégalités du destin ? Quelles sont vos intentions pour renforcer ces dispositifs et quels partenariats comptez-vous développer pour y parvenir ? Enfin, comment les dispositifs dédiés à l'enfance, à la jeunesse, dans les quartiers populaires s'inscrivent-ils dans cette démarche globale d'inclusion et de formation ? Je vous remercie d'apporter ces éléments devant la représentation.
Et je vous rappelle qu'un quartier prioritaire de la politique de la ville, ce sont les quartiers qui cumulent le plus de difficultés et qui font l'objet d'une attention et d'une mobilisation de l'ensemble des pouvoirs publics.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, cher Stéphane Travert, votre question est d'autant plus pertinente que dans la Manche, comme dans les 1609 quartiers politiques de la ville dont nous nous occupons, le taux d'emploi des jeunes est inférieur à la moyenne nationale et le taux de chômage est 2,3 fois supérieur à celui des territoires environnants. Par ailleurs, c'est une population extrêmement jeune et c'est la raison pour laquelle le premier objectif du comité interministériel des villes présidé par le Premier ministre à Montpellier le 6 juin dernier était de mettre l'accent sur l'investissement dans l'enfance et la jeunesse, parce que vous avez raison de dire que ces jeunes sont, hélas, majoritairement issus de familles monoparentales et donc vivent dans des situations de précarité sociale et familiale inédites. Nous avons donc décidé, lors de ce dernier CIV, de faire des quartiers, des centres économiques, de ressources économiques légales. Car il y a un dynamisme inédit, on ne le dit pas assez. Il y a un taux d'entreprise qui se crée chaque jour plus important qu'ailleurs. Et donc, nous œuvrons dans trois directions. D'abord, Nous allons créer plus d'entreprises dans les quartiers et nous avons pour cela lancé un fonds public d'investissement de 60 millions d'euros dans le cadre d'Entrepreneuriat Quartier 2030. C'est un programme essentiel parce que c'est un programme qui a un effet de levier considérable. 1 euro d'argent public génère 9 euros d'argent privé. Nous avons aussi réussi à attirer des investissements privés.
Vous voyez ce que c'est l'effet de levier ?
Notamment de faire venir des entreprises.
Le fait que quand tu as un investisseur qui rentre dans un tour de table, tu as les autres investisseurs qui sont incités à rentrer aussi.
Qui vont permettre d'attirer les entreprises qui investissent principalement dans le cadre du commerce, de l'artisanat. Et puis, nous allons bien sûr améliorer l'accès à la formation et à l'emploi pour vous répondre, notamment avec un objectif de 80 000 apprentis originaires des quartiers. Et enfin, j'ai signé avec la Caisse des dépôts une convention de 350 millions d'euros. C'est une convention inédite jusqu'à 2027, ce qui va nous permettre d'attirer encore davantage d'activités économiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à monsieur Christophe Bex pour le groupe La France Insoumise.
Christophe Bex pour LFI.
Madame la Présidente, monsieur le Premier ministre, chers collègues, je vais vous parler d'un petit bout de territoire où se trouve depuis plus de 25 ans un laboratoire. Inconnu par le grand public, étonnant car les enjeux sont considérables pour notre industrie et en particulier l'industrie du nucléaire. Il y est prévu le projet insensé du millénaire, creusé pendant plus de 150 ans, 300 km de galeries, soit une fois et demie la longueur du métro parisien, stocké à 500 mètres sous terre des déchets concentrant à eux seuls 99,9% de la radioactivité, des déchets d'une durée de vie moyenne de 200 000 ans. Bure est le train d'atterrissage de l'industrie nucléaire. Bure et ses environs colonisés avant d'être irradiés, où les vies comptent moins que les autres, où on exproprie les terres et les consciences, où les élus locaux ont cru à la carotte financière. Bure n'est pas seulement le laboratoire des déchets ultra-radioactifs, il est le laboratoire de la répression. Mais le 5 juin dernier, la justice a ordonné la relaxe générale pour les 3 derniers prévenus, désavouant ainsi les politiques répressives qui ont pesé sur des dizaines de personnes, des familles, pendant 8 années. Cette relaxe, c'est la défaite du talon de fer, écrasant la démocratie, instrumentalisant les procédures judiciaires, réprimant violemment toutes les contestations, comme à Sainte-Soline, autour de la 69, les soulèvements de la terre et à Bure. Alors ma question, quelle réparation prévoyez-vous pour ces personnes ?
Christophe Bex, il a 63 ans, il est député de Haute-Garonne du côté de Muret, il a été salarié de la Poste, il a aussi été attaché d'administration à l'université Jean Jaurès de Toulouse où il était délégué syndical. Il pose une question sur le stockage des déchets nucléaires en profondeur sur le site de Bure, le projet CIGEO. La France Insoumise est un des partis les plus fervents anti-nucléaires.
Une question importante, celle de l'enfouissement des déchets et au-delà de la responsabilité que nous devons à l'environnement et aux personnes au regard de ce choix historique qui a été fait par la France, qui est celui de l'énergie nucléaire. Et c'est un choix, vous le savez, que nous assumons pleinement. Vous l'avez souligné, la gestion des déchets, c'est un sujet lourd. 99,9% de la radioactivité est contenue dans 2,5% des déchets, les déchets de moyenne et haute activité, qui sont effectivement l'objet du projet de Bure, du projet CIGEO. Dire que le stockage géologique profond est une solution pérenne. Ça a été salué, ça a été acté, à la fois par la loi française, mais aussi par les textes européens. Et c'est la raison pour laquelle ce projet a toute légitimité. J'ajoute que sur ce projet, il faut également écouter la voix des élus. En 1998, les départements de la Meuse et de la Haute-Marne se sont portés volontaires pour accueillir ce laboratoire de recherche que vous avez évoqué. Et je pense qu'il faut également écouter les élus lorsqu'ils voient les potentialités pour leur territoire d'un projet industriel de cette ampleur. Je pense qu'il faut se réjouir de l'avancement du projet CIGEO dont la décision d'autorisation est envisagée pour 2028. Il faut s'en réjouir et d'ici là, il faut continuer le dialogue avec les élus autour de ce projet de territoire. Il se trouve que j'étais il y a quelques semaines en Haute-Marne et que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux à l'occasion d'une visite de site industriel. Les élus sont demandeurs, notamment, d'une fiscalité qui soit équitablement répartis afin que les bénéfices de ce projet industriel échoient à l'ensemble du territoire.
Sans surprise, Marc Ferracci qui défend le projet Cigéo à Bure.
Sur le nucléaire, en toute responsabilité. Je vous remercie.
Le gouvernement qui est très pro-nucléaire. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait annoncé des investissements supplémentaires dans le nucléaire.
Pour ne pas connaître un Stocamine puissance 1000, il est temps de siffler la fin de ce projet lors de la manifestation du futur à Bure qu'aura lieu le 20 septembre 2025. En cette journée d'appel, soyons merci nombreux à Bure le 20 septembre.
20 septembre, merci. Jour de mobilisation à Bure. Oh, il y a Claire au premier rang.
La parole est à monsieur Paul Christophe pour le groupe socialiste.
Paul Christophe.
Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, cette nuit, le conclave sur les retraites s'est achevé sur un échec. Un rendez-vous de la dernière chance est donné le 23 juin, mais les partenaires sociaux sont hésitants à s'y rendre. Et nous les comprenons. Vous vous étiez engagé à ce que les discussions soient sans totem ni tabou, y compris sur la mesure d'âge. Mais à plusieurs reprises, alors que la négociation sociale était en cours, vous avez écarté la possibilité de revenir sur l'âge de départ, conduisant d'ailleurs une partie des organisations syndicales à quitter la table des discussions. Cette semaine encore, vous êtes allé jusqu'à formuler une proposition pour maintenir les seniors dans l'emploi, à rebours du mandat donné aux partenaires sociaux et dans le seul espoir de gagner du temps. Depuis 6 mois, vous n'avez eu de cesse de fragiliser une négociation dont vous auriez dû être le premier et le principal garant. Monsieur le Premier ministre, en janvier dernier, vous vous êtes engagé par écrit à ce que le Parlement ait en tout état de cause, en tout état de cause, c'est ce que vous avez écrit, le dernier mot sur cette réforme. Mais hier, en réponse au président Vallaud, vous êtes revenu sur cet engagement et vous avez trahi votre parole. S'il n'y a pas d'accord, aucun texte ne sera soumis au Parlement. Pourtant, vous le savez, il existe une majorité pour abroger cette réforme injuste. Il y a moins de 15 jours, l'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité une résolution exigeant son abrogation. Après avoir entravé la démocratie sociale, allez-vous également bafouer la démocratie parlementaire ? Après tant de renoncements, tiendrez-vous finalement les engagements pris devant nous ? Permettrez-vous enfin que s'exprime la représentation nationale ?
Paul Christophe, le 38 ans, député de la Drôme, du côté de Valence. Il a été conseiller de Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse et des Sports, mais aussi conseiller de Fleur Pellerin quand elle était ministre de la Culture. Il pose une question sur le conclave sur les retraites en voie d'échec.
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Paul Christophe, monsieur le député, vous faites allusion aux discussions qui se sont passées jusque tard cette nuit entre les partenaires sociaux. Vous le savez, le mandat qui a été donné aux partenaires sociaux par le Premier ministre, vous l'avez dit, c'est effectivement de discuter sans tabou pour améliorer notre système de retraite. Vous savez aussi que les discussions portent sur différents sujets, l'un d'entre eux étant l'usure professionnelle, la compensation de cette usure professionnelle. Il y a également la place des femmes et du travail des femmes, dont on sait que ce sont elles qui ont le plus de difficultés à avoir des retraites complètes eu égard à l'activité professionnelle qui a été la leur. Il s'avère que, effectivement, à hier soir, les débats n'étaient pas totalement conclusifs. Et c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont décidé de se donner jusqu'à lundi pour travailler et de se retrouver lundi, le 23 juin. Donc à ce stade, rien n'est terminé. Ça, c'est pour l'aspect calendaire. Maintenant, si nous parlons du sujet en tant que tel, la mesure demandée par le Premier ministre, c'est effectivement travailler sans tabou en s'engageant à un équilibre structurel. C'est ça le sujet. Et la lettre à laquelle vous faites allusion de Monsieur le Premier ministre, est une lettre dans laquelle le Premier ministre s'est engagé effectivement à revenir devant le Parlement. La fin de la phrase est claire. Il faut un accord politique et un équilibre financier. Voilà l'ensemble.
Ouais, on sent que ça va être difficile quand même pour les partenaires sociaux de parvenir à cette équation. En tout cas, ils ont une semaine de rab.
Des conditions. Rien n'est terminé. Nous sommes mercredi 18 juin. Il est 14h20. Il reste donc presque une semaine pour que les uns et les autres continuent à discuter. Les Français nous attendent et je ne doute pas que nous trouverons une issue.
Merci. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Député.
Madame la Ministre, débattons-en à l'Assemblée nationale. Et si vous ne donnez pas le dernier mot au Parlement, il le prendra et vous partirez.
La menace de censure brandie par les socialistes si jamais il n'y a pas de retour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale.
Madame Alexandra Martin pour le groupe Droite Républicaine.
Alexandra Martin.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Justice, La pédocriminalité en ligne est une réalité de plus en plus préoccupante. Le développement du numérique et de l'intelligence artificielle générative, certes vecteurs de savoir et d'opportunités, ont ouvert la voie à des formes inédites d'atteintes graves aux mineurs, manipulation psychologique, harcèlement, chantage sexuel après avoir trafiqué des photos ou vidéos, ou encore des viols simulés dans des univers immersifs. Ces actes, bien que virtuels dans leur forme, ont des conséquences psychologiques profondes et bien réelles. Ces pratiques, en constante évolution, se diffusent à grande échelle. Les atteintes numériques à l'encontre des enfants ont augmenté de 45% en 2024. J'ai pu travailler aux côtés d'associations remarquables qui œuvrent pour sensibiliser, prévenir, détecter, signaler, comme Caméléon, Point de Contact, Fondation pour l'Enfance et d'autres. Et je veux saluer le travail de Pharos, de l'OFMIN, des gendarmes, de la police et de la gendarmerie. Ces échanges, l'ampleur et la gravité du phénomène m'ont convaincue de la nécessité d'adapter le droit à ces nouvelles pratiques malveillantes, délictuelles et criminelles. J'ai en ce sens déposé une proposition de loi visant à mieux lutter contre la cyberpédocriminalité. Ce texte insiste sur la responsabilisation des plateformes et certaines, plus que d'autres, s'y attellent, l'adaptation de notre droit aux usages malveillants numériques et le renforcement de la prévention auprès des familles, des enfants et des professionnels. Bien sûr, ce combat ne sera pas gagné par un seul acteur. Il exige l'engagement de tous. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles actions concrètes votre ministère entend mener pour accompagner ces efforts et renforcer les outils juridiques et...
Alexandra Martin, députée des Alpes-Maritimes du côté de Cannes. Elle a 56 ans. Elle est ancienne conseillère de Michel Mouillot, qui était le maire UDF de Cannes. Elle est surtout très proche de l'actuel maire de Cannes, David Lisnard. Elle est même secrétaire générale de son mouvement qui s'appelle Nouvelle Énergie. Et elle pose une question sur la lutte contre la pédocriminalité en ligne.
Madame la présidente, mesdames et messieurs députés, madame la députée Martin, d'abord je voudrais saluer votre engagement dans la protection de nos enfants, des mineurs, qui est évidemment un grand drame que cette cybercriminalité, notamment la cyberpédocriminalité, qui touche bien au-delà de nos frontières toutes les familles et qui peut toucher chacune et chacun d'entre nous en utilisation des logiciels informatiques aujourd'hui, mais aussi en utilisant les échanges de vidéos et de photos qui poussent à des actes incestueux et à des viols ou à des agressions sexuelles. Vous avez été reçue à mon cabinet, madame la députée. Votre proposition de loi signée par 43 de vos collègues, quel que soit leur groupe politique, montre à quel point vous êtes soutenue. Et personnellement, je veux apporter mon soutien à votre proposition de loi si elle devait être discutée dans l'hémicycle. Vous savez que depuis la fin du mois de janvier, j'ai adressé une circulaire de politique pénale qui touche notamment la protection des mineurs. Parmi les trois objectifs que j'ai fixés au procureur de la République, de les poursuivre systématiquement tout ce qui a été signalé à l'autorité des procureurs. Nous sommes aussi aidés par la loi du 21 mai 2024 dite SREN pour lutter contre un certain nombre de difficultés qu'on connaît à Internet. Et comme ministre de l'Intérieur, je sais que M. Buffet comme M. Retailleau poursuivent ce que j'ai imaginé et créé. C'est l'Office national qui lutte contre les crimes qui touchent les mineurs et qui n'existaient pas auparavant et qui permet de faire cette doctrine en lien avec la justice. Je veux donc dire, madame la députée, à quel point nous allons et nous continuons avec le ministre de l'Intérieur à mettre des moyens dans les salles Mélanie, les moyens technologiques pour lutter contre la cybercriminalité qui touche les mineurs, contre les viols, notamment dans le cadre familial, mais que votre proposition de loi serait la bienvenue et que je serais heureux de donner un avis favorable en y travaillant avec l'ensemble de la souveraineté nationale.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste et social.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de la Santé, une étude scientifique internationale d'une ampleur inédite, la plus vaste réalisée à ce jour, vient d'être publiée sur les effets du glyphosate. Menée par une équipe internationale, elle s'appuie sur une observation de longue durée, portant sur un large échantillon et sur un protocole d'une rigueur rarement atteint. Et les résultats sont sans appel. Même à faible dose, pourtant conforme à la norme européenne actuellement en vigueur, l'exposition prolongée au glyphosate provoque des leucémies précoces et de multiples tumeurs. Pourtant, vous le savez, l'autorisation du glyphosate a été renouvelée jusqu'en 2033. 10 ans de plus d'exposition pour nos agriculteurs, 10 ans de résidus de glyphosate dans nos aliments, 10 ans de perdus contre les cancers. Je ne peux imaginer, Monsieur le Ministre, que vous soyez sourd aux immenses préoccupations de la population sur les toxiques qui empoisonnent nos vies. Je veux d'ailleurs ici relayer l'appel à une mobilisation massive le 29 juin contre la loi du plomb, dont les mesures inquiètent nos concitoyens. Je ne peux pas non plus vous imaginer insensible à cette nouvelle étude sur le glyphosate, car je vous sais engagé dans la lutte contre le cancer. Je le rappelle une nouvelle fois, Cette étude d'ampleur démontre que le glyphosate provoque des cancers à des doses jugées aujourd'hui sûres par l'Union européenne. Ces nouveaux résultats changent donc la donne. Le statu quo n'est plus tenable. Monsieur le ministre, j'ai donc deux questions très précises. À la lumière des résultats de cette étude inédite, la France va-t-elle interpeller la Commission européenne et demander la révision de la réautorisation du glyphosate? Et si la Commission reste sourde, allez-vous activer le principe de précaution et interdire cette substance sur notre
sol? Nicolas Thierry, 49 ans, député de Gironde, du côté de Bordeaux. Il a été membre du cabinet de Cécile Duflot. Il a rejoint les Verts en 2005. Il a participé aux campagnes de Dominique Voynet et d'Eva Joly. Il est engagé dans la lutte contre les PFAS et il pose une question sur le renouvellement de l'utilisation du glyphosate.
Effectivement, nous avons tous pris connaissance de cette étude qui a été publiée dans Le Monde, qui, je le rappelle, concerne non pas une étude humaine, mais une étude sur des rats. Donc, premier point. Deuxième point, il est important de mesurer, deuxièmement, effectivement l'effet d'imprégnation dans la population française du glyphosate. C'est à ce titre-là que nous avons diligenté une nouvelle étude, l'étude Alban, qui a débuté début juin par Santé publique France et l'ANSES, et qui donnera ses résultats en 2027. Il reste naturellement à signaler que les populations exposées professionnellement ou en population générale restent actuellement en dessous de la valeur sanitaire de référence. En termes de cancérogénicité du glyphosate, les différences de conclusion sur le potentiel cancérigène du glyphosate persistent entre, d'une part, le Centre international de recherche pour le cancer et l'Agence européenne des produits chimiques. Le CIRC a classé le glyphosate en catégorie 2A comme cancérogène probable, alors qu'en mai 2022, l'Agence européenne des produits chimiques a quant à lui conclu que les conditions pour la classification du glyphosate comme cancérigène n'était pas réunie. Nous avons donc un avis de l'ANSES qui sera publié fin juin. Nous aurons, Madame la députée, un avis de l'ANSES qui sera député fin juin. L'ANSES a été saisie par la Direction générale de la Santé le 15 février 2023 et plusieurs demandes sont liées sur les pesticides et leurs métabolites. Il y aura un quatrième livrable de l'ANSES qui sera fait, qui a été fait le 5 mai 2024 dernier.
L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité des produits des pesticides sanitaires, c'est ça ?
De nous dire si effectivement elle revoit sa doctrine vis-à-vis du glyphosate et la France se soumettra aux conditions qui seront décidées par l'Union européenne.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Mais au regard de la situation que vous décrivez, c'est le principe de précaution qui doit prévaloir. Puisque, évidemment, on a un faisceau de preuves aujourd'hui qui montre, avec le CIRC, cette nouvelle étude, qu'il y a des effets sur la population. Eh bien, si vous êtes responsable, c'est bien le principe de précaution qui doit prévaloir pour protéger les Françaises et les Français.
Le principe de précaution qui est évoqué par les écologistes pour demander l'interdiction du glyphosate.
Pour le groupe démocrate.
Frédéric Petit.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Armées. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la violence du Kremlin est de plus en plus débridée. Ces dernières semaines, et en particulier ces dernières 24 heures, Kiev, Tchernihiv et plusieurs villes d'Ukraine ont subi les bombardements les plus massifs depuis 2022, éventrant des immeubles d'habitation, des infrastructures civiles, des maternités, tuant des enfants et des hommes, 15 morts dans leur sommeil. J'ai une pensée pour mes amis de Tchernihiv, en particulier Yulia, présidente du Businesswoman pour l'Ukraine, dont les enfants ont dormi sous les bombes. Pour nos collègues de la Rada, et en particulier son président que notre Assemblée accueille aujourd'hui, les écoliers, ceux de notre école française à Kiev, qui travaillent dans le shelter, pour nos ressortissants et entrepreneurs sur place, pour nos agents sur place. Le président américain, qui promettait de mettre fin à la guerre, n'a pas fait reculer d'un iota Vladimir Poutine. Pire, il semble même lui avoir donné un permis de tuer. Moscou observe avec délectation la nouvelle administration américaine reprendre ses éléments de langage, son narratif et savoure. Devant l'impasse des négociations, la puce à limiter de l'administration Trump et la posture de plus en plus agressive et criminelle du Kremlin, l'Europe et la France doivent monter en puissance dans leur soutien à l'Ukraine. Je salue la livraison et l'efficacité de nos mirages donnés à l'Ukraine, qui ont pu être utilisés dans la défense aérienne, mais ce n'est pas suffisant.
Les mirages, ce sont des avions de combat.
Nous, monsieur le ministre, que faisons-nous pour protéger les civils ukrainiens ? Combien de temps allons-nous supporter les pratiques odieuses du Kremlin que nous avons déjà observé il y a 20 ans à Grozny en Tchétchénie, il y a 10 ans à Alep en Syrie. Je rase, je bombarde, je tue les civils, je sidère et je garde la main. Combien de temps allons-nous supporter encore de nous réveiller chaque matin en constatant les deuils, les bâtiments effondrés, les désespoirs, les destins personnels brisés et les bombes psychologiques à retardement que cette barbarie nous promet? Monsieur le ministre, comptez-vous remettre sur la table des échanges avec nos partenaires européens?
Frédéric Petit, il a 64 ans, il est député des Français établis en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie. Il est ingénieur spécialisé dans les réseaux de chaleur urbain et il est membre de la Commission des Affaires étrangères. Voilà pourquoi il pose une question sur la Russie et l'Ukraine.
Je vous prie d'excuser le ministre des Armées qui est pris actuellement par d'autres engagements au Bourget. Chaque victime ukrainienne est un drame que je déplore. Et je veux ici assurer le peuple ukrainien de notre soutien. Face à ces tragédies, le ministère des Armées agit comme il l'a fait depuis février 2022, en donnant à l'Ukraine des moyens pour assurer sa défense. La menace principale à laquelle font face les victimes ukrainiennes vient des airs. La France est attachée avec ses partenaires à fournir à l'Ukraine les moyens les plus performants pour se défendre contre les attaques aériennes russes. Monsieur le député, vous avez cité les avions de chasse Mirage 2000-5 qui font un travail remarquable en Ukraine. Nous avons non seulement fourni à l'Ukraine ces avions et leur armement, mais nous avons également formé en France ceux qui les mettent en œuvre. Il faut également mentionner les différents systèmes que nous avons fournis à l'Ukraine pour compléter sa défense antiaérienne. Des radars de surveillance aérienne pour détecter la menace aérienne, ce qui est le préalable à toute action contre les drones et les missiles russes. Des missiles de défense sol-air très courte portée, Mistral, à la pointe de la technologie. Un système de défense sol-air moyenne portée, Samté, qui là encore est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Pour chacune de ces livraisons, nous avons aussi former les Ukrainiens et nous fournissons les pièces et les maintenances nécessaires. Je veux également mentionner les équipements de pointe qui sont les missiles de croisière Scalp et les canons César qui renforcent les capacités de l'armée ukrainienne et lui permettent de se défendre dans son territoire attaqué. Monsieur le député, vous le voyez, nous sommes pleinement engagés dans le soutien à l'Ukraine et nous sommes déterminés à poursuivre cette voie. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et nous aurons effectivement le plaisir de recevoir Ruslan Stefantchouk, président de la Rada, dans l'après-midi, avec une délégation
ukrainienne. La Rada, c'est le,
je voudrais
c'est le
passer
Parlement ukrainien,
la parole
je crois.
À Monsieur Paul Molac pour le groupe Lyot.
Paul Molac,
merci,
le député
Madame
breton.
La présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, l'agriculture biologique a besoin de soutien. Une question majeure pour notre agriculture, pour la qualité de notre alimentation, la préservation de nos sols et la qualité de nos masses d'eau. Madame la Ministre, certaines de vos récentes annonces ont pu interroger. Vous avez décidé il y a quelques semaines de réduire de 15 millions d'euros le budget de l'agence bio. C'est autant d'argent en moins pour des campagnes de communication à destination des consommateurs et pour l'aide à la structuration des filières bio. Aujourd'hui, l'État dispose d'ores et déjà d'un reliquat de 250 millions d'euros non consommés au sein du budget de la PAC dans le cadre des aides à la conversion en bio. Or, vous avez annoncé lors d'un déplacement dans le Gers, département de mon collègue David Topiak, que vous avez souhaité prendre 50 millions de ce fonds en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. Je ne peux que souscrire à votre volonté de favoriser l'installation des nouveaux exploitants. Mais convenez ici que l'argent destiné à l'agriculture bio sera dépensé en majorité pour l'agriculture conventionnelle. Madame la Ministre, la conjoncture reste préoccupante. C'est dans ce contexte que la Chambre d'agriculture de Bretagne a récemment demandé une accentuation des aides au bio. On pense évidemment aux aides au maintien. Pouvez-vous nous assurer, Madame la Ministre, que les budgets prévus pour l'agriculture bio et ce reliquat, qui est désormais de 200 millions d'euros...
Paul Molac, il est député du Morbihan, du côté de Plouermel. Il a 63 ans, il est professeur d'histoire géo dans un collège-lycée.
Merci
il est
beaucoup,
militant associatif engagé dans la défense de la culture et du patrimoine de Bretagne. C'est un député régionaliste. C'est pour ça qu'il porte une tenue traditionnelle
merci
bretonne.
Madame la présidente,
et il pose une question sur le soutien à l'agriculture
mesdames,
biologique.
Députés,
on écoute Annie Genevard.
Député Paul Molac, merci pour votre question. L'agriculture biologique, vous le savez, est un pilier essentiel de notre politique agricole qui vise à allier souveraineté alimentaire et transition écologique. Alors, le gouvernement n'a jamais cessé son soutien aux agriculteurs bio. Vous évoquez les 15 millions de l'agence bio. 10 millions étaient une subvention à caractère exceptionnel. Vous n'ignorez pas le contexte budgétaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et avec le tarissement du plan de relance et celui de la planification écologique, il y a eu évidemment cette conséquence. Et je le déplore avec vous, mais vous connaissez, en parlementaire responsable, la situation que nous vivons. Par ailleurs, les 5 millions dédiés à la communication sont bien là cette année. La campagne a commencé et j'ai dit à la filière bio que nous essaierions d'aller chercher des crédits européens sur la poursuite de cette campagne de communication en 2026. Je rappelle qu'en 2025, elle a bien lieu. Maintenant, sur le reliquat bio de 257 millions d'euros sur la campagne 2023-2024. J'ai en effet, et j'ai réservé cette annonce au Congrès des jeunes agriculteurs, que je donnerai une partie de ce reliquat aux jeunes agriculteurs dans l'aide aux revenus. Vous savez qu'on a devant nous le mur du renouvellement de des générations en agriculture. Il faut que nous encouragions les jeunes à aller vers les métiers agricoles. Et pour ça, il faut leur assurer un revenu en début de carrière. Et parmi les jeunes agriculteurs, mesdames et messieurs les députés, vous n'ignorez pas qu'il y a des agriculteurs en bio. Voilà. Donc, il faut quand même le dire.
Il y a des gens qui font des études pour devenir agriculteur dans le chat ou pas ?
Il y aura une revalorisation de l'éco-régime. Il y aura, selon toute probabilité, un programme opérationnel sur le lait bio. Quasiment 1 euro de l'Union européenne sur 2 est conditionné à des critères agroécologiques, vous le savez. Et c'est une politique que je poursuivrai.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Bah, bravo. Bravo pour les agriculteurs dans le chat.
Merci Madame la Ministre. Il faut rester très attentif à la filière bio qui a beaucoup souffert les deux dernières années. Là, ça va un petit peu mieux, mais il faut vraiment continuer et bien sûr pousser les collectivités locales à appliquer la loi Egalim, c'est-à-dire les 20% de bio et 50% de signes de qualité dans la restauration collective, car je dois avouer que dans certains, et en particulier l'État avec ses hôpitaux, nous sommes à la peine.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Xavier Albertini pour le groupe Horizon.
Merci madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la semaine dernière s'est tenue place Beauvau en présence de parlementaires, de représentants d'associations d'élus et de vous-même un premier point d'étape du groupe de travail relatif aux installations illicites des gens du voyage. Avec votre ministre délégué, Jean-Noël Buffet, vous avez souhaité associer les élus qui travaillent sur ce sujet. Et naturellement, avec ma collègue Nathalie Collin-Austerlet, nous avons participé à cette initiative. Les premières préconisations et orientations qui nous ont été présentées permettront de soulager les élus et de l'ensemble des territoires. Et le terme « soulager » n'est pas choisi au hasard. Élu à Reims, ayant été longtemps chargé d'une délégation à la sécurité, je sais à quel point les installations sauvages sont une hantise, puis un cauchemar lorsqu'elles deviennent réalité. Ces installations sauvages ne portent pas seulement atteinte aux droits de propriété des communes ou des personnes privées concernées, elles occasionnent des problèmes de salubrité, de sécurité, engendrent des dégradations, des dommages matériels et environnementaux. Nombre de gens du voyage respectent leurs obligations. Malheureusement, d'autres s'en affranchissent, faisant ainsi porter un regard négatif sur l'ensemble de cette communauté. Nombre de nos concitoyens victimes de ces installations illicites sont donc dans l'incompréhension quant à l'impunité pénale réelle ou supposée de la part des contrevenants. Et il se développe dans nombre de territoires un sentiment de dissymétrie vis-à-vis de l'application et du respect des lois, gage de la vie en commun. Enfin, nombre de nos maires et élus locaux se trouvent démunis face à la destruction d'équipements publics dont la charge financière de la remise en état pèse sur leurs finances publiques.
Xavier Albertini, il a 54 ans, il est député de la Marne, du côté de Reims. Il a été adjoint au maire d'ailleurs de Reims. Il est avocat fiscaliste au barreau de Reims. Et il pose une question sur les gens du voyage. Je précise qu'il est vice-président du groupe d'études sur les gens du voyage à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi c'est lui qui pose cette question.
Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir quelle va être la suite donnée à ces préconisations et surtout dans quel délai. Nombre de nos concitoyens, de maires, de présidents d'intercommunalités et disons-le aussi de nos forces de l'ordre sont dans l'attente. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur.
François-Noël Buffet qui va répondre sur les gens
merci
du voyage.
Madame la présidente, monsieur le député, d'abord merci pour votre participation active au groupe de travail que nous avons mis en place il y a quelques mois et qui s'est réuni effectivement la semaine dernière pour consacrer plus d'une vingtaine de propositions, en discuter et pouvoir en apprécier la pertinence. Et il est vrai qu'une partie des propositions qui ont été retenues ont été puisées à bonne source dans le texte que vous aviez déposé. Mais je voulais simplement rappeler peut-être pour l'Assemblée qu'en 2024 ont été recensés 1326 grands passages dans 78 départements, dont 569 étaient illicites, ce qui représente plus d'une installation sur trois qui occupe un terrain public ou privé de manière sauvage. Au-delà de ça, les propositions que nous avons retenues, en tous les cas sur les thèmes, c'est renforcer l'efficacité des sanctions et leur application, renforcer les pouvoirs du préfet en matière d'évacuation de terrains occupés de manière illicite, renforcer les exigences d'utilisation des aires d'accueil et inciter à la réalisation des aires d'accueil et mieux anticiper les grands passages. Alors où en sommes-nous, puisque le fond de la question est celle-ci? Nous aurons une nouvelle réunion, ensemble d'ailleurs, le 7 juillet prochain, au cours de laquelle on procédera aux derniers arbitrages. Pendant cette période qui nous sépare du 7 juillet, nous sommes sur le point de régler les derniers sujets qui relèvent du législatif ou du réglementaire, on le sait à peu près, mais dans les précisions que nous les voulons parfaites, et donc au 7 juillet, les choses devraient être calées. Et à cet instant-là, nous préparons le texte, dont j'espère, Monsieur le Premier ministre, qu'il sera prêt pour la fin du mois de juillet, et qu'ensuite il pourra prendre son chemin parlementaire normal.
Ouais, bah on verra, ça dépendra du budget.
Nous allons avancer vite. Ce groupe, sous la responsabilité du préfet Alloncle, a fonctionné, je crois, assez bien, et les mesures que nous espérons pouvoir mettre en place devraient être efficaces. Voilà, Monsieur le député, encore merci pour votre...
C'est mieux maintenant que j'ai baissé un petit peu mon micro.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Julien Bruges.
Sinon, je peux le remettre, mon micro, comme avant.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la réforme des retraites de 2023... est un affront sans précédent fait à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Depuis 2 ans, vos prédécesseurs et vous-même avez choisi l'évitement et le contournement de la représentation nationale pour tenter de faire oublier la profonde injustice de cette réforme. Mais cette stratégie ne change rien. Plus des 2/3 des Français continuent de demander son abrogation. Dès le lancement du conclave, vous avez corseté toute discussion sur le rétablissement de l'âge légal de départ à 62 ans. Cette prise de position, totalement aberrante au regard des règles élémentaires de la négociation sociale qui s'ouvrait, a entraîné le retrait de la CGT et de Force ouvrière. Elle participe de l'enlisement que vous entretenez pour gagner du temps. De la même façon, vous avez déclaré hier ici qu'en l'absence d'accord, la réforme de 2023 continuerait de s'appliquer comme si de rien n'était.
C'était hier
le
sur
MEDEF
Twitch.
N'en demandez pas tant, Monsieur le Premier ministre. Quel que soit le résultat du conclave, dont l'issue est toujours plus fragile, il ne répondra pas à cette demande claire qu'expriment les Français. Ils ne veulent pas d'un recul de l'âge légal à 64 ans. Le 5 juin dernier, les députés communistes et des territoires dits d'outre-mer de notre groupe ont fait adopter dans cet hémicycle, à une très large majorité, une résolution demandant d'abroger la réforme de 2023 et ses mesures rétrogrades. Ce vote, jusqu'alors confisqué à notre Assemblée, vous oblige et vous place devant une seule alternative, abroger ou recourir à un référendum. Cette alternative est la seule option pour sortir de la crise que vous entretenez, pour réparer l'offense faite au peuple. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin procéder à l'abrogation de cette réforme des retraites?
Julien Brugerolles, député du Puy-de-Dôme, il a 42 ans, il a été enseignant en lycée agricole. Il a surtout travaillé pour André Chassaigne, il a été suppléant d'André Chassaigne, l'ancien président du groupe. Et il pose une question sur la réforme des retraites, vous l'avez bien compris. Ah, c'est le Premier ministre en personne qui va répondre.
Merci,
cette fois-ci.
Madame la Présidente, mesdames et
François
messieurs
Bayrou,
les
alors.
Députés, monsieur le député Brugerolles, il y a quelque chose qui est au-dessus des sondages. C'est la vérité et la réalité de la situation. Nous avons eu, il y a quelques jours à peine, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été adopté par toutes les organisations qui sont membres du Conseil d'orientation des retraites et qui dit de manière absolument évidente quelque chose que nous ne devrions pas pouvoir mettre en cause dans cette enceinte, qui est que l'équilibre financier de nos régimes de retraite, de notre système de retraite, est absolument précaire. Que le seul moyen... C'est en effet qu'on s'accorde, toutes les forces syndicales et les représentations des entreprises, que l'on s'accorde pour que on trouve les conditions et notamment pour ce qui concerne l'âge, en raison de la réalité démographique du pays, qu'on trouve les conditions pour que ces régimes soient équilibrés. Autrement, nous faisons quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, que vous faites depuis très longtemps et que les gouvernements successifs, parfois, ont accepté depuis longtemps, qui est de reporter sur les générations qui viennent la charge des pensions, du paiement des pensions de retraite aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai indiqué à cette tribune, lors du discours de politique générale, et j'ai indiqué dans la lettre aux organisations qui participent à cette délégation qu'on a appelée le conclave, j'ai indiqué que s'il y avait un accord, même partiel, il serait soumis à la représentation nationale. Ah. Et s'il n'y a pas d'accord,
accord partiel,
c'est la
aussi
réforme précédente qui continuera à s'appliquer. Et ceci est d'une clarté biblique. Et donc nous aurons, naturellement, aussi longtemps que cette Assemblée siégera, nous exprimerons chacun notre position. Celle du gouvernement est très claire, c'est la seule qui défende l'intérêt et l'équilibre financier au bénéfice des Français et notamment...
François Bayrou qui n'en démord pas, donc il y aura donc un retour du texte à l'Assemblée s'il y a un accord partiel, mais s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme précédente qui s'appliquera à la réforme d'Elisabeth Borne.
Merci, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la décision de votre gouvernement d'interdire les entreprises israéliennes au Salon du Bourget est une faute lourde. C'est non seulement une faute morale, mais c'est aussi une faute stratégique majeure. Stratégique, car Israël constitue un rempart pour la sécurité du monde. Un rempart contre l'État terroriste iranien et son programme nucléaire. Indigne moralement, vous interdisez les stands israéliens dissimulés derrière des panneaux noirs. En d'autres temps, sous d'autres gouvernements, sous un autre gouvernement, ces panneaux auraient été jaunes. Oui, jaunes. Mais quelle indignité ! Vos explications sur les armes offensives ne tiennent pas. La faute est lourde et sans appel. Pendant cette interdiction, la dictature islamique bombarde Israël et menace le monde. Pourquoi refusez-vous clairement de soutenir Israël contre l'Iran qui menace la paix mondiale ? Pour tergiverser face à un État terroriste qui fait peser le risque d'une guerre nucléaire ? En s'attaquant aux entreprises israéliennes, la France favorise le régime terroriste iranien. Une dictature islamique qui emprisonne son peuple et nous menace de destruction. Allez-vous clarifier votre position et réaffirmer votre soutien à Israël ? Considérez-vous que l'Iran est notre problème et notre ennemi ? Considérez-vous qu'Israël est notre ami ?
Éric Michoux, il a 65 ans, il est député de Saône-et-Loire, du côté de Chalon-sur-Saône. Il est président d'une holding de PME qui travaille dans l'industrie. Il est vice-président du groupe d'études sur l'industrie de défense. Et il prend la parole suite à la polémique des stands d'entreprises israéliennes au Salon international aéronautique du Bourget.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michoux. Je ne rebondirai pas sur les comparaisons douteuses, sinon honteuses, que vous avez fait concernant la présence des entreprises israéliennes au Salon du Bourget face aux périodes les plus sombres de notre histoire. Je vous laisse à vos propres comparaisons que je qualifie à nouveau de honteuses. Concernant ce qui s'est passé au Bourget, c'est assez simple. Il y avait des conditions d'exposition pour toutes les entreprises de tous les pays. La très grande majorité, et y compris des entreprises sur le stand israélien, l'ont respecté. D'autres ne l'ont pas respecté. Et les conséquences de la part de l'organisation ont donc été prises sur instruction du préfet. C'est aussi simple que cela. Cela ne change, bien entendu, rien à la position française vis-à-vis d'Israël, que ce soit, évidemment, sur la question de son soutien permanent au droit à se défendre, comme sur le sujet que vous avez évoqué vis-à-vis de la situation en Iran. Puisque vous m'avez également posé la question là-dessus, permettez-moi d'en profiter pour vous dire qu'avec l'ensemble des postes de présence diplomatique et des consulats, notre priorité est tout d'abord d'assurer la sécurité de nos ressortissants, qui est en cours avec un dialogue permanent, et à 16h encore, une réunion autour du président de la République aura lieu sur cette question-là pour pouvoir à la fois leur assurer la sécurité, mais aussi les meilleurs moyens pour pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, repartir en France, notamment via les voies terrestres et notamment pour les près de 200 000 ressortissants français qui sont en Israël. La question de la lutte et du refus de la France de voir l'Iran se doter d'une arme nucléaire, elle n'est pas nouvelle. C'est celle qui a permis justement, pendant des années et des années, notamment il y a 10 ans, par la négociation, par la voie diplomatique, d'avoir justement une situation qui nous permettait d'éviter cela. Nous gardons avec constance cette même position. Nous gardons avec constance cette même position, merci. Non au fait merci, que l'Iran puisse se doter d'une arme nucléaire.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le député.
Oui, mais vous n'avez pas réellement répondu à la question. Finalement, vous défendez qui ? L'Iran ou Israël ? Clairement.
Merci beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 15h.
Ça me paraît compliqué de dire qu'il défend l'Iran, vu sa réponse. On arrive à la fin de cette séance de questions au gouvernement. Les députés quittent l'hémicycle pour reprendre leurs travaux ailleurs. Bon, bah, finalement, on en aura parlé du conclave sur les retraites, vous voyez ? Il y a eu 2 questions qui ont été posées, une par les socialistes, une par les communistes, sur le conclave des retraites. Et on a eu la prise de parole de François Bayrou qui a confirmé ce qu'il avait dit hier. Il n'y aura de retour du texte à l'Assemblée nationale qu'en cas d'accord entre les organisations syndicales. Et en cas de désaccord, alors il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de retour du texte et ça continuera donc à s'appliquer, la réforme d'Elisabeth Borne, la réforme de 2023. C'est trop cringe d'être représenté par des gens aussi malhonnêtes, convaincus qu'ils sont ce qu'ils disent eux-mêmes est faux, mais que ça paye politiquement. Je sais pas de qui tu parles, en fait. Si tu fais un grand sac dans lequel tu mets tous les députés, un peu compliqué quand même. Pourquoi ils rendent binaires toutes les positions sur ces guerres ? Ah bah là, en l'occurrence, c'est le député Éric Michoud qui, lui, en fait une lecture binaire. Soit on défend Israël, soit on défend l'Iran. Soit on est totalement du côté d'Israël, soit on est totalement du côté de l'Iran. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de troisième voie possible. Mais ça, c'est sa position à lui. Il y a eu des questions inattendues quand même. Tu parles de quelles questions inattendues ? Sur les animaux domestiques ? C'est pas étonnant hein, que le Rassemblement national parle des animaux domestiques. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen était l'un des seuls politiques français à faire des campagnes d'affichage pour le droit des animaux dans les années 80-90. C'est un vieux truc du Rassemblement national, hein, la protection des animaux, des chats. Je vous rappelle que Marine Le Pen, elle est éleveuse de chats, diplômée. La lutte contre la pédocriminalité en ligne, ouais. Et Chirac avec le prix des croquettes pour chiens. Oui, c'est vrai qu'il y avait Chirac aussi, ouais. Elle n'est pas avocate. Elle n'exerce plus son métier d'avocate, Marine Le Pen. Et elle a passé une qualification professionnelle d'éleveuse de chats il y a quelques années. La question sur les gens du voyage, c'est pas surprenant du tout. Hein. Ça, c'est assez récurrent à l'Assemblée nationale qu'on ait des questions qui concernent les gens du voyage. Atterré de l'intervention de Monsieur Michoud. En même temps, c'est l'UDR, hein, c'est Éric Ciotti, c'est des alliés de Marine Le Pen. Faut pas... Je ne sais pas ce que vous en attendiez. Hein. Les gens qui sont déçus, je ne sais pas ce que vous attendiez exactement. Hein. Oui, c'est l'UDR, quoi. C'est un groupe d'extrême droite proche de Marine Le Pen. Pas, plus que proche, ils sont alliés à Marine Le Pen. Mmh. quelles sont les prochaines dates pour la réforme des retraites ? La réforme des retraites, le conclave a une semaine de plus, donc on verra la semaine prochaine si le conclave conclut sur un accord entre les partenaires sociaux ou pas. Et à défaut de conclure sur un accord entre les partenaires sociaux, ce sera probablement à la rentrée en septembre qu'on aura l'inscription d'un texte à l'Assemblée nationale. L'ambiguïté du RN sur les animaux, c'est qu'ils défendent la chasse en parallèle. Ah bah oui, non, ils défendent pas tous les animaux. Il y a des... Ça dépend. Est-ce qu'il y a des études sur la proportion répartition des sujets abordés en séance de questions au gouvernement dans le temps ? Non. Non. Il y a les bons et les mauvais animaux. Ouais, c'est ça, il y a les animaux qui sont dignes d'être défendus par le RN et d'autres animaux qui ne sont pas dignes d'être défendus. Défendre les animaux et les traditions, y compris la tradition de tuer des animaux. C'est un peu particulier. Est-ce qu'il y a une suite à ces questions ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Comment te dire ? C'est un parlement. Voilà, le Parlement, il parlemente toute l'année, toute la journée, toute la semaine. Et là, ce que tu viens de regarder, ce n'est qu'une séance, de questions sur des sujets d'actualité qui sont adressés aux membres du gouvernement. Donc à quoi ça sert un Parlement ? Ça sert à parlementer, ça sert à faire la loi, ça sert à évaluer la politique publique, à contrôler l'action du gouvernement. Et tu viens de ne voir que 5% du travail qui va irriguer tout le reste du travail. Est-ce que tu vois une amélioration des débats avec cette majorité ou pire qu'avant ? Ça dépend ce que tu appelles. C'est quoi un débat de qualité selon toi ? Comment tu juges la qualité d'un débat à l'Assemblée nationale ? Sur quels critères ? Moi, j'en sais rien. Moi, je les trouve fidèles à elles-mêmes. Les questions au gouvernement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pas. Il n'y a pas de grand changement. C'est quand tout le monde est d'accord avec Jean-Luc. Pour que tout le monde soit d'accord avec Jean-Luc, il faudrait qu'il commence par gagner des élections. Après, on verra. Qualité, s'invectiver et savoir s'entendre. Moi, je ne crois pas que les députés ils aient vocation à s'entendre. Hein. On a le droit d'avoir des désaccords en démocratie. C'est pas... Moi, je ne crois pas à l'idéal démocratique. Cuicui, les petits oiseaux, on s'assit tous en rond dans les prés et on discute et on finit par tous se mettre d'accord dans un consensus national. Je ne crois pas qu'il y ait de consensus national. Je pense qu'il y a des intérêts divergents. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Il y a des opinions politiques divergentes et elles s'expriment à l'Assemblée nationale. Je suis même plutôt favorable à ce qu'elles s'expriment de manière franche. Quitte à ce que ce soit vif, parfois. LFI est arrivé en tête aux dernières législatives. Oula, non. Carrément pas. Non, non. Cette assemblée existera le jour où la Scandinavie aura annexé la France. Mais même les Scandinaves, je sais pas quelle idée vous vous faites des Scandinaves, mais il y a des dissensus politiques, il y a des dissensus démocratiques. Ça sert à quoi qu'elle s'exprime ? C'est quoi la finalité ? La démocratie. La démocratie, l'expression de l'opinion contraire. À minima, son expression. C'est à ça que ça sert un parlement. Je ne sais pas exactement quelle idée vous vous faites d'un monde idéal. Mais moi, un monde idéal, c'est pas un monde dans lequel tout le monde est d'accord. Ça, j'y crois pas. Mais c'est même plus que je n'en veux pas. C'est un idéal nord-coréen iranien, c'est pas tout à fait une société idéale selon moi. Moi, un monde idéal, une société idéale, c'est une société qui assume ses dissensus, qui en parle, qui crée un cadre, par exemple un parlement, dans lequel on met en scène et on élabore la discussion. Donc, une assemblée nationale vivante, dans laquelle il y a des discussions franches, des discussions vives, c'est pas une assemblée qui dysfonctionne. Au contraire, c'est même plutôt une assemblée qui fonctionne bien. Et c'est en ça que j'ai un désaccord avec les personnes qui trouvent que les députés feraient mieux de rester calmes, se taire, ne pas applaudir, ne pas exprimer parfois vigoureusement leur désaccord. Ça, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas du tout un idéal démocratique pour moi. C'est pas obligé d'être un zoo non plus. Je suis désolé, c'est pas un zoo. Hein. Je sais pas depuis quand t'es pas allé dans un zoo, mais c'est un parlement. C'est un parlement où les députés s'invectivent, comme dans un parlement. Mais je sais que la perturbation des séances de l'Assemblée nationale est très mal vue par l'opinion publique. Ça, je le sais. LFI qui se barre pour la moindre raison, c'est pénible en ce moment. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec toi. LFI, c'est quand la dernière fois qu'ils se sont barrés, LFI ? La semaine dernière. Dans une séance de questions au gouvernement, LFI, ils sont levés, ils sont barrés. Ou c'était hier ? C'était la semaine dernière ou hier ? Non, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ceux qui étaient là, c'était la semaine dernière. Bon, ben voilà. Puis franchement, se lever et se barrer, c'est pas bien méchant comme protestation, hein. C'était quoi le déclencheur de leur départ ? C'était la réponse du gouvernement qui les énervait. C'était une question sur la flottille de Gaza. Non, je regarde vos messages. Tiens, attends, je vais virer ça. Hop. Si on discute tous les deux et que je me barre parce qu'on n'est pas d'accord, tu trouveras ça respectueux. Mais t'as pas à me respecter, hein. T'as pas à me respecter. Enfin, je veux dire, si t'es pas content de notre discussion, t'as le droit de te lever et de te barrer. On n'est pas en Corée du Nord. Enfin, je veux dire, je vais pas te forcer. Je vais pas te tordre le bras pour te forcer à rester. Personne n'a l'obligation d'argumenter, hein. C'est un truc qu'on oublie un peu souvent d'ailleurs sur Internet quand il y a des débats en ligne. Attends, je vais remonter mon micro, hop là. Personne n'est obligé d'argumenter, hein. Et personne n'a l'obligation, n'a la charge de l'argumentation. Vous êtes libre de quitter une conversation qui ne vous plaît pas. Non, et puis pareil, enfin, je veux dire, la question du respect de l'interlocuteur, mais de quel interlocuteur on parle ? Qu'est-ce que les juifs doivent faire face à un antisémite ? Ils doivent le respecter ? Ils doivent l'écouter ? Ils doivent s'asseoir avec lui ? Papoter avec lui ? C'est important pour la démocratie, comme ça, que chacun se respecte ? Non ? Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'une femme doit faire avec un misogyne ? Elle doit échanger des arguments avec lui ? Non ? Non, certainement pas. Qu'est-ce qu'un noir doit faire avec un raciste ? Qu'est-ce qu'un enfant doit faire avec un pédocriminel ? Qu'est-ce que... Non, mais vous voyez, il y a un moment, je veux bien cette espèce d'idéal de respect où on s'assoit tous et puis on se parle parce que c'est beau, c'est important, c'est la démocratie. Non, en fait, il y a des gens avec lesquels vous n'avez pas l'obligation de vous asseoir et de discuter. Vous n'êtes pas obligé au débat. Et c'est le cas avec l'extrême droite, par exemple. L'extrême droite qui méprise les droits humains, qui propose un projet raciste et anti-républicain, vous ne leur devez pas la discussion. Vous ne leur devez rien d'ailleurs. Ils ont le droit d'être dans l'hémicycle puisqu'ils ont été élus pour ça. Et d'ailleurs, eux aussi, d'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire vaut dans l'autre sens. Hein. Ils n'ont pas l'obligation de discuter avec des insoumis, avec des communistes, avec des socialistes, etc. Absolument pas. Donc, pareil, les injonctions au respect, moi, c'est un truc sur lequel je vous invite à lever le pied à mort, quoi. Je ne dois aucun respect à un antisémite. Aucun. Je ne dois aucun respect à un raciste. J'ai pas l'obligation de lui apporter la contradiction, de l'écouter dans ses arguments, etc. Et ben c'est pareil en démocratie. Comment faire nation sans respect ? On n'est pas obligé de faire nation avec tout le monde. Hein. Pareil, hein. Pardon, mais on n'est pas obligé de faire nation avec tout le monde. Pas d'obligation. Avec ton argument, en fonction de ton propre jugement, tu peux décider de n'avoir personne à qui répondre. Mais bien sûr, tu peux. Évidemment que tu peux. Non mais vous êtes libre, enfin encore une fois, pardon, mais vous êtes libre. Si vous voulez partir dans la forêt, vivre en ermite et ne parler à personne, vous avez le droit. Hein. C'est pas... Vous n'avez pas d'obligation. Vous savez, enfin, je vais encore faire le point Godwin, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a reproclamé la République, il n'y avait pas tout le monde autour de la table. Hein. Croyez pas que... On a pris les résistants, on a pris les collabos, on s'est dit, bon allez, oh, allez on reste des frères entre nous, on se prend dans les bras, allez, on va oublier le passé. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. 100% de résistants, voilà, 100% de résistants. Les collabos, ils n'étaient pas invités à la discussion. Mais alors pas du tout. Voilà, bah on a refondé la République avec les républicains, pas les anti-républicains. Et ce qui restait de réseau de collaboration, bah ça a créé Ordre Nouveau, qui a fondé le Front National en 1972. C'est pas démocratique. Ah non, c'est terrible, c'est pas démocratique. Hein. Vous vous rendez compte ? On n'a pas refondé la République avec les anti-républicains. On n'a pas invité ceux qui ont effondré la République pour la refondation de la République. C'est pas sympa, hein. Quand on y pense. C'est très intolérant. Hein. Finalement, est-ce que les antifascistes ne sont pas les nouveaux fascistes ? Non, je déconne, c'est bon, j'arrête. vous connaissez la porie intellectuelle, c'est bon, on connaît. C'est mauvais joueur. Bah oui, c'est mauvais joueur, oui. Donc ouais, non, pareil, l'idéal démocratique de tout le monde s'assoit en rond, se tape dans la main et papote l'air de rien comme si de rien n'était, moi je suis pas d'accord. Pour le coup, c'est un minimum dans notre société de laisser parler tout le monde. Non. Non, la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. Tout le monde n'a pas le droit à la parole, ça dépend de ce que disent les gens. Et s'il y a des atteintes à la loi, elles sont condamnées par les tribunaux. La liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. Certainement pas, elle l'a jamais été. Dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est prévu qu'il y ait des exceptions qui seront précisées par la loi à la fin du 19e siècle. tout le monde peut voter s'il est français et pas sous tutelle. Oui, absolument. Le droit de vote est un droit qui est individuel, qui appartient à la personne du citoyen. Mais c'est pas parce que les gens ont voté que ce pour quoi ils ont voté obtient automatiquement un brevet de respectabilité. Ça marche pas comme ça. Donc ouais, non, je sais pas, je me méfie des discours simplistes, c'est-à-dire que je comprends qu'il y en a beaucoup dans le chat qui sont très sévères contre la bordélisation à l'Assemblée nationale, notamment de la part de la France insoumise. C'est très impopulaire, ça on le sait, de toute façon, ça a été mesuré par des enquêtes d'opinion, où on sait que voilà, les Français qui jugent assez mal le comportement des insoumis à l'Assemblée nationale. Moi, je le défends plutôt, ce comportement des insoumis à l'Assemblée nationale, parce que je suis un vieux républicain démocrate, que je regarde le Parlement et que je n'attends du Parlement qu'il ne soit qu'un Parlement. Donc je me trompe pas de combat. Mais surtout, je mets en garde contre l'idéal démocratique de tous ensemble, on s'assoit en rond et on discute, quoi. La démocratie, c'est la mise en musique de nos désaccords. Après, on n'avait pas l'habitude de voir des personnes aussi borderline et en nombre dans le Parlement. Tu parles des insoumis ? Oui, 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 ils n'ont jamais été aussi nombreux, oui. Je pensais au RN aussi. Bah, le RN, pour le coup, ils ont la stratégie de la cravate, donc ils se comportent bien à l'Assemblée. Hein. LFI, c'est quand même d'anciens PS. Pas tous. Jean-Luc, oui, mais les autres, non. Mon idéal démocratique, c'est les pleins pouvoirs pour Mélenchon, Samar. Et on fait quoi des manifestants alors? Ce sera quoi la doctrine de maintien de l'ordre? Tu vois, les aficionados du LBD qui vont se découvrir finalement une passion pour le maintien de l'ordre. Regarde, Léo Mans, il était au Modem avant de rejoindre Mélenchon. Ouais, Léo Mans, il a commencé au Modem en 2007, ouais. Démocratie plein pouvoir. Ouais, ouais, non, mais il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués, qui ont en fait un idéal démocratique extrêmement faible. C'est souvent le cas. Tu fais les QAG du Sénat? Non. Je fais plus les QAG du Sénat. Non, 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 non. Est-ce que ça existe un pays avec une décentralisation totale du pouvoir? Ça peut pas être totale la décentralisation, parce qu'à ce moment-là, c'est en dessous de l'État fédéral, donc non. Hmm. Tous ces partis sont le même système, rien ne bougera jamais. Oui, si tu crées un grand sac dans lequel tu mets tous les partis politiques sans exception. Effectivement. C'est une solution de facilité, remarque. Si c'est la solution qui te convient le mieux parce que c'est la plus facile, n'hésite pas. Elles ont une particularité, les QAG du Sénat, où c'est pareil, mais avec des questions différentes car elles sont posées par des sénateurs. Ou non, c'est pareil. C'est pareil avec des questions d'actualité qui sont posées par des sénateurs qui ont un intérêt particulier pour les territoires. Ce que tu viens de dire me rappelle mon sujet de philo de 2004. Les hommes ont-ils besoin d'être gouvernés? Les hommes ont-ils besoin d'être gouvernés? Le sujet de philo. Quel enfer. On a regardé les sujets du bac hier. Pour cette année. Les sujets de philo notamment. Qui répond aux QAG du Sénat? Bah les ministres. Les mêmes. Ouais, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. J'ai l'impression que tout a l'air dur maintenant, qu'importe la matière au bac. Ah, moi, j'ai l'impression que tout est vachement dur au baccalauréat. Quand je discute autour de moi de la démocratie, j'en arrive à la conclusion que les gens préfèrent vivre dans une dictature de leur camp que dans une démocratie avec le camp d'en face au pouvoir. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. T'as effectivement une facilité de penser, mais moi, je fais partie des pessimistes qui considèrent que la démocratie n'est plus à la mode. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas vivre en démocratie. À choisir, la démocratie n'est pas le système préféré pour beaucoup de gens, qui préféreraient effectivement une dictature éclairée qui va dans leur sens à eux. Et ça, c'est un truc que tu retrouves avec des écolos, avec des communistes, avec des macronistes, avec des RN, etc., qui ont cette vision, finalement, je préfère un régime autoritaire tant que je suis du côté du pouvoir. Ça me va. La question du droit des minorités, la question du droit de l'opposition, la question de la liberté d'expression... Ouais, je suis pas fan. Si c'est permettre aux autres, à ceux qui sont pas d'accord avec moi, de s'exprimer, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut nuancer en disant que les gens préfèrent une certaine autorité à restaurer plutôt qu'une dictature. Oui, mais toujours une autorité qui va dans leur sens. C'est-à-dire que ce que moi je pense, si ça pouvait être obligatoire, ce serait mieux. On n'est pas du tout dans des logiques d'incitation, de mise en place de politiques publiques. Ouais, c'est ça, incitative. On est dans une logique d'obligation et d'interdiction. Parce que les gens voudraient rester des enfants avec de bons parents toute leur vie. Oui, t'as peut-être une esthétique de l'autorité, effectivement, qui fait plaisir, encore une fois, dès lors qu'elle va dans ton sens, quoi. Je suis nostalgique de fou des années 90, c'est terrible. Les années 90 ? La Zoubida et tout ? T'es nostalgique de cette période-là ? Le village Bamboula? Non, non, moi non. Après, est-ce qu'une démocratie solidement ancrée, ça existe? J'ai l'impression d'avoir jamais connu ça, mais je me trompe peut-être. Non, t'as raison, il y a un inconfort permanent de la démocratie. La démocratie n'est jamais... La démocratie est une remise en question permanente d'elle-même. C'est ça la grande différence entre la démocratie et les régimes autoritaires, c'est que les régimes autoritaires, ils doutent pas de leur autorité. Hein. Alors que la démocratie, elle doute de son caractère démocratique. Elle se réinterroge, elle se réinvente. Elle est rediscutée en permanence. On rediscute de trucs qu'on a déjà tranchés il y a longtemps. Les régimes autoritaires, si tu veux, l'Iran, t'as l'ayatollah Khamenei, voilà, c'est lui qui a raison, merci, au revoir. Je suis nostalgique de fou de l'époque Ceausescu, Kadhafi et Al-Assad. Oui, t'as raison, c'est vrai. Avec, merde, le dictateur irakien Saddam Hussein aussi. Il y avait Saddam Hussein. Il y avait Ben Ali. Ah ouais, il y avait Ben Ali, il y avait Kadhafi. Ouais, les bons souvenirs, la bonne époque, quoi. Non, c'était chouette. Je dis pas que c'est mieux maintenant, hein. Mais je dis que moi, la nostalgie, la nostalgie, c'est un truc que je ressens pas du tout. C'est un truc que je ressens pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il y avait une période qui était mieux que celle d'aujourd'hui. Et en disant ça, je ne dis pas que la période d'aujourd'hui est la meilleure qu'on ait connue. C'est juste que je refuse de regarder les périodes avec un regard de qualité meilleure ou moins bonne. Moi, je sais même pas sur quels critères est-ce qu'on compare les époques, les périodes, sur la foi de quoi, et surtout pourquoi faire. C'est surtout ça qui me fait flipper, en fait, c'est pourquoi faire. Parce que les discours nostalgiques de « c'était mieux avant », bizarrement, ils tournent toujours un peu tous autour du même thème et c'est pas un thème que j'apprécie beaucoup. Et puis surtout, je me méfie de la subjectivité. Je me méfie beaucoup de la subjectivité. C'est facile de considérer que ce qu'on a connu soi était de meilleure qualité à l'époque. C'est un fantasme assez récurrent, je trouve, qui est de se dire que sa propre enfance ou sa propre jeunesse était de meilleure qualité que celle des autres. Qu'il faut en revenir à l'époque où moi, j'étais jeune et je fantasme cette époque-là en me disant qu'à l'époque, tout allait bien. Alors que rien n'allait bien, c'est juste que j'étais pas politisé, c'est pas pareil. J'étais insouciant, c'est pas la même chose. Je catégorise la qualité d'une époque en fonction de l'inventivité du Zelda sorti sur la Nintendo. Ça, c'est une bonne méthode, je trouve. C'est une bonne méthode de classement. Surtout que notre mémoire nous trompe sans qu'on s'en rende compte. En plus, notre mémoire nous trompe, évidemment. Non, mais vraiment, l'insouciance, c'est l'époque. Bah, effectivement, mon époque d'insouciance, c'était les années 90. C'était génial les années 90. Bah oui, parce que j'étais enfant. Alors forcément, je m'intéressais pas à la politique. J'avais conscience de pas grand-chose. Et j'ai découvert les Pokémon. Bon, bah voilà. Forcément. Mon jugement, il est voilà. Mon jugement, il est basique. Il est lié à mon ressenti des choses. La meilleure époque de l'histoire, c'est l'ère du règne de Platini, no discussion. Non mais voilà, tu vois, c'est Platini, Zidane, Ronaldo, voilà, chacun choisit quoi. Mbappé. Et ça, je me méfie beaucoup de cette nostalgie en matière culturelle. J'aime pas du tout le conservatisme culturel. Les gens qui considèrent que le rap c'était mieux avant, que le rock c'était mieux avant, que les jeux vidéo c'était mieux avant. Je me méfie beaucoup de ces discours ultra nostalgiques. Et en politique, c'est un peu pareil, quoi. La protection sociale, c'était mieux avant. Ben non, avant, il n'y avait pas la prise en compte de la dépendance, par exemple. Les gens, c'était mieux avant. Les autres. Les autres, c'était mieux avant. Aujourd'hui, les autres, ils sont moins bien. Les autres, ils sont agressifs, ils sont négatifs. Ouais, j'aime pas. L'air pur, c'était mieux avant. Ouais. Les amis, je vais m'arrêter là. Je vous rappelle que demain, on se retrouve sur la chaîne Twitch d'Arte à partir de 19h pour l'émission Euroguesseur. Soyez là demain pour l'émission Euroguesseur sur Arte. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour la séance des questions au gouvernement. Et donc, je retrouve demain sur Arte. Merci les copains. Des gros bisous. À demain. Ciao, ciao.